I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour la dernière édition de la semaine de Midi News. On entame le débat juste après le point sur l'info avec Mickaël Dorian aujourd'hui. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Elisabeth Borne étudie aujourd'hui 41 propositions pour sauver les urgences, parmi elles la revalorisation des salaires et un tri plus efficace des patients. Il faut dire que la liste des problèmes à résoudre est longue. Burn-out, pénurie de médecins et d'infirmiers, fatigue chronique. Bonjour Antoine Estève, vous êtes au centre hospitalier d'Arcachon. Vous avez pu constater les difficultés que rencontrent ces urgences depuis longtemps.
Effectivement, on a pu parler avec eux. Alors ce matin, évidemment, la nouvelle du doublement des heures supplémentaires, donc des heures de nuit pour cet été, eh bien, c'est vrai que ça facilite un petit peu le travail, on va dire. Les sourires sont revenus sur les visages, mais tout le monde est très inquiet, notamment pour le personnel cet été, directement dans les urgences. Alors il y a plusieurs pistes qui sont étudiées. Ici, à l'hôpital d'Arcachon, on n'a pas attendu cette mission flash pour s'organiser. On a déjà prévu, par exemple, un médecin généraliste en plus dans les urgences tous les jours pour pouvoir soigner ce qu'ils appellent ici la bobo. Vous savez, tous ces soins qui ne sont pas forcément des soins des urgences, qui pourraient être soignés par les médecins de ville et qui ne sont pas forcément pris en charge dans les villes parce que les gens vont systématiquement ou presque aux urgences. L'autre problème, je viens de vous le dire, c'est ce tri à l'entrée des urgences. Ici, on aimerait bien pouvoir trier, pouvoir envoyer justement cette population estivale, par exemple, énorme dans la région. Je vous rappelle que le bassin d'Arcachon, c'est 300 000 touristes ici en Gironde qui viennent se masser sur les plages cet été. Donc ça fait forcément beaucoup de monde aux urgences. On aimerait ici pouvoir envoyer toutes les personnes qui ne nécessitent pas forcément du déchocage ou des soins d'urgence ou de la réanimation vers les médecins de ville. Ça, c'est la deuxième étape dans ce plan flash. Et la troisième étape, ce serait qu'il n'y ait pas de petits grains de sable dans le dispositif, ce qui voudrait dire, par exemple, une fièvre de Covid très importante au mois de juillet qui ferait qu'il y aurait des arrêts de travail chez les personnels. Donc là, ça pose vraiment un gros souci parce que tout le monde est en flux tendu. Et d'autre part, plus de personnes encore aux urgences touchées par ce nouveau Covid qui est en train d'arriver.
Merci Antoine Estève, en direct du centre hospitalier d'Arcachon. Des milliers de voyageurs vont rester sur le tarmac aujourd'hui. Une partie du personnel d'aéroport de Paris est en grève. Conséquence à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, les compagnies aériennes réduisent de 17% leur programme de vol entre 7h et 14h. Une situation qui pourrait bien gâcher le début des premiers départs des vacanciers. Dans le reste de l'actualité, cinquième jour de procès pour le procès de Jean-Marc Reiser aux assises du Bas-Rhin. L'audience a repris ce matin avec l'audition des experts légistes. L'accusé, lui, sera interrogé cet après-midi. Noémie Schulz, vous êtes au tribunal de Strasbourg. La cour va tenter de savoir ce qui est arrivé à Sophie Le Tan le jour de sa disparition.
Absolument, et vous l'avez dit, pour cela, la Cour a entendu ce matin les experts légistes qui ont examiné le corps de Sophie Le Tan et tenté d'établir les causes de sa mort. Une audience particulièrement pénible pour les proches de la jeune femme, puisqu'ils ont notamment assisté à des projections de photos de la reconstitution des faits. On y voit Jean-Marc Reiser porter des coups au visage d'un mannequin représentant Sophie Le Tan, puis il est au sol, une scie à la main, et il mime les gestes qu'il a eus pour démembrer le corps de Sophie Le Tan. Dans la salle, une tante de la jeune femme pleure en silence. Son père, lui, garde les yeux baissés dans le vague. Ce médecin légiste a expliqué ensuite que la version de Jean-Marc Reiser donne, selon laquelle il aurait frappé Sophie Le Tan et qu'elle serait tombée sur les toilettes morte sur le coup, et bien que cette version n'est pas crédible, aucune trace n'a été retrouvée sur les os du crâne. Et puis surtout, insiste-t-il, c'est très rare que la mort soit instantanée. Dans ces cas-là, il y a généralement plusieurs heures, voire plusieurs jours de coma. Tout cela met donc à mal la défense de Jean-Marc Reiser, et c'est là-dessus qu'il va être longuement interrogé cet après-midi à partir de 14h, et il aura sûrement beaucoup de choses à dire. On le voit très attentif, prendre des notes et parfois même glisser des questions à ses avocats pour les différents interlocuteurs qui interviennent.
Noémie Schulz en direct de la cour d'assises du Bas-Rhin à Strasbourg. 21 étapes, 176 coureurs sur la ligne de départ pour 3349 kilomètres de course. Le Tour de France débute aujourd'hui à Copenhague avec une épreuve contre la montre dans les rues de la capitale danoise. Le double tenant du titre, le Slovène Tadej Pogačar, reste le grand favori. Côté français, en l'absence de Julian Alaphilippe, c'est Thibaut Pinot qui est le cycliste le plus attendu de l'année. La suite des débats de Midi News avec Nelly Denac et ses invités dans un instant. Mais tout de suite, c'est la chronique éco avec Eric de Rydmaten. On va revenir sur l'inflation avec une étude qui révèle les véritables hausses dans l'alimentaire.
Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
C'est une étude qui vient juste de sortir. Elle a été réalisée par IRI, qui est un institut, en fait, un cabinet d'études qui prend les tickets de caisse dans les magasins et qui analyse les prix, les compare par rapport à l'année dernière. Eh bien, sur un an, les prix ont carrément dérapé. Vous allez voir 21 produits dont les prix ont augmenté de plus de 10%, alors que l'inflation, pour l'instant, à fin juin, elle est à plus 5,8. Et regardez ces hausses un peu démentielles. Steak haché surgelé, plus 20%. Les pâtes, plus 17,3%. Les moutardes et huiles, plus 13%. Alors on parle même du café, plus 12,6% en un an. Alors ce sont des comparaisons à faire avec la même période de l'an dernier, hein, sur 12 mois bien entendu. Abus ou pas, là on verra. En tout cas, les distributeurs comme les producteurs sont scrutés par le ministère de l'économie, qui explique qu'ils devront s'expliquer à un moment ou à un autre, parce qu'il demandera des comptes à la fin de la crise, a dit hier Bruno Le Maire. Alors les transports bien sûr ont augmenté, tout le monde le sait, les prix bien sûr augmentent, le papier, etc. Mais est-ce que cela justifie 20% de hausse sur le steak haché surgelé, par exemple? La question est posée.
C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
Voilà notre débat à présent avec ce vendredi, bien évidemment, un bilan de la nouvelle histoire politique, il faut bien l'appeler ainsi, qui est en train de s'écrire à l'Assemblée nationale. On va en parler avec nos invités. Bonjour Joséphine Staron, bienvenue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes docteur en philosophie politique, vous êtes directrice des études et des relations internationales chez Sinopia. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vos côtés, Jean-Louis Burguin. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Journaliste, ancien directeur de la rédaction de Canal+. Merci, je suis ravie de vous retrouver. Quoique dans un exercice un petit peu différent pour tous les deux. Et puis Marc Hainaut est là également. Bonjour. Bonjour Marc, vous êtes journaliste chez Boulevard Voltaire. Je vous le disais, actualité politique très dense, avec aussi l'attente du discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Il interviendra mercredi en milieu d'après-midi. Mais avant cela, j'ai d'autres thèmes à vous soumettre, à commencer par cette histoire. C'est l'histoire de Karine. C'est l'histoire banale d'une jeune femme qui prend le taxi à une heure tardive après son travail, pensant bien évidemment être en sécurité dans un véhicule afin de rentrer chez elle. C'est l'histoire d'un viol dont l'issue du jugement est incompréhensible aujourd'hui pour la victime, mais pas seulement, bien sûr, vous allez le voir. Je vous propose d'écouter son témoignage pour commencer.
Je rentrais du travail, en fait, un soir je rentrais du travail au restaurant que je fermais. Il devait être, je sais pas, à minuit. J'ai été abordée par un chauffeur de taxi qui me disait que c'était dangereux de se promener tout seul le soir comme ça et qui proposait une course gratuite pour me ramener chez moi. Et je vous l'ai fait assez rapidement parce que c'est un peu difficile. Pardon. J'ai même plus de larmes. Je suis désolée. Et en fait, une fois dans son taxi en bas de chez moi, un peu plus loin, il m'a forcé à faire une fellation. Il a passé ses doigts partout, enfin bref, et pour lui tout ça c'était normal. Après il m'a demandé mon numéro de téléphone, il m'a laissé, et aujourd'hui il dit qu'il comprend pas parce que pour lui tout ça c'était consenti. Ça fait 25 ans qu'on m'élève en me disant que la justice de ce pays elle est juste, elle sera juste, donc oui j'ai confiance en la justice, mais aujourd'hui, enfin pardon, hier elle nous a trahis, et j'espère qu'elle va réparer ça parce que je sais qu'elle est capable de ça aussi.
Et donc, ce sont peut-être ces derniers mots, ces dernières phrases qui marquent, elle a encore confiance en la justice, dit-elle, c'est un message assez fort. Il ne faut pas qu'elle se sente trahie une deuxième fois. C'est ça le drame, en fait, de cette histoire.
C'est ça qui est abominable dans cette histoire. Et j'espère vraiment que la justice... Enfin, pour moi, la justice a fait une erreur parce que non seulement cette victime n'a pas eu le sentiment qu'on lui a rendu justice, mais en plus, ça laisse aussi présumer le pire pour les autres victimes à venir, les victimes de cet individu, les victimes d'autres individus qui vont sentir pousser des ailes. C'est ce sentiment d'impunité qui est terrifiant, en fait, en réalité, et qui fait exploser l'insécurité, qui contribue à faire exploser l'insécurité dans ce pays. Et pour cette jeune fille, pour toutes les victimes de ce genre de crime, la justice doit revenir là-dessus, et elle se doit de faire appel, et elle se doit de condamner cette personne à une peine exemplaire, parce que derrière ce crime, ce sont des centaines, des milliers de futurs criminels, de futures victimes qui vont se retrouver, qui auront ce même sentiment de trahison, et un sentiment de trahison qui est objectivement totalement légitime.
Joséphine Staron, franchement, cette affaire, c'est pas du tout de nature, comme le dit Marc, à nous réconcilier avec le système judiciaire. Il est déjà mis à mal, il est déjà défié de toutes parts. Si en plus on entend des histoires comme ça jour après jour qui nous font penser qu'il y a une sorte de fatalisme et que tout est perdu finalement sur l'issue de ces jugements, ça va aller de mal en pis, si j'ose dire.
C'est une affaire tragique. Malheureusement, ce n'est pas la seule. Il y en a eu d'autres. Il y en aura probablement d'autres. Je ne suis pas là pour commenter une décision de justice. En revanche, ce qui serait intéressant quand même, c'est que la magistrature se pose la question de sa représentation dans la sphère publique et médiatique. Parce que là, on est face à un jugement qu'on ne comprend pas. On n'est pas tous juristes, on ne sait pas quels étaient les tenants et les aboutissants qui ont poussé les juges à
avoir cette décision. Vous allez voir, on va entrer un peu dans le détail de cette histoire.
Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le témoignage des juges, des magistrats ou un représentant de la magistrature, un porte-parole qui puisse venir expliquer cette décision, mais aussi toutes les autres qui font des controverses dans l'espace public, qui sont incomprises et qui contribuent, vous l'avez dit, à un sentiment d'insécurité. On entend toujours les avocats, on entend les victimes, on entend même parfois les accusés, mais on n'entend jamais les magistrats ou des représentants de la magistrature.
Après, vous le savez, les magistrats, quand ils statuent sur des affaires, ils ont un droit de réserve, évidemment.
Il pourrait avoir un porte-parole.
Bon, il y a aussi des instances, effectivement, la magistrature qui a ses représentants, qui est parfois invitée sur nos plateaux, mais ils sont très peu prompts à commenter.
Et c'est vrai que c'est pas dans leur culture, on peut le comprendre. Maintenant, je pense qu'il y a, il faut peut-être s'adapter aussi au temps qui est le nôtre, qui est un temps très médiatique, et surtout essayer de répondre aux inquiétudes des justiciables.
Bien sûr.
Et ceci en expliquant les raisons qui poussent à faire tel et tel jugement. Ça, je pense que ce serait déjà un préalable indispensable pour qu'il y ait un sentiment de confiance dans la justice.
Alors, on a déjà fait le débat un peu de manière transversale. J'aimerais qu'on s'attache et qu'on reste un peu sur cette histoire, à commencer par la réaction de l'avocate de cette jeune femme, de Karine, qui revient sur le réquisitoire qui n'a pas été suivi dans l'affaire. Écoutez.
Vous imaginez qu'il en prend la moitié et uniquement deux fermes et le reste en sursis probatoire. Donc c'est même, j'allais dire, un échec pour l'enquête, l'instruction. Ce monsieur a été mis en liberté dès le départ parce qu'il avait des garanties de représentation, alors que les faits étaient très graves. En gros, il faut savoir que dans ce dossier-là, il y a 12 victimes potentielles et il n'y en a que 3 qui se sont constituées partie civile.
Voilà, c'est ça qui frappe. Il s'agit de juger finalement un modus operandi, visiblement, Jean-Louis Burga. Cet individu est coutumier du fait.
C'est ce qui frappe et c'est ce qui est le plus gênant, si j'ai bien compris. Pour une femme, il est toujours aussi dur, aussi compliqué d'aller devant à la police, d'aller témoigner, d'aller porter plainte. C'est un moment qui est difficile à assumer. Et des affaires comme celle-là remettent le doute dans la tête. Enfin, toute cette période très compliquée à gérer, si je comprends bien les témoignages des femmes qui sont victimes de ce genre d'attaque. Ce jugement. Maintenant, je pense qu'on aura d'autres explications. Les juges, effectivement, ne peuvent pas parler ou ne parlent pas dans ce genre d'affaires. Et je crois qu'ils ont pris en compte pas mal de choses, dont, par exemple, la personnalité du criminel. Et ils sont intervenus d'une façon un peu curieuse sur la façon dont ils pouvaient permettre à ce criminel de se réinsérer dans la société. Je sais que ça fait partie de leurs attendus.
Alors, on va retrouver Marie Obaza qui suit ce dossier pour nous. Bonjour Marie. On rappelle, réquisitoire, c'était 12 ans, une peine amputée de moitié, donc, et aménageable. Comment peut-on expliquer ce verdict aujourd'hui et quelle a été la motivation de la Cour en l'espèce ?
Justement,
on a eu accès à une partie des motivations de la cour d'assises d'Evry. Peut-être rappeler d'abord que ce verdict, il a été rendu par une cour d'assises et donc effectivement par trois juges professionnels. Mais cette cour d'assises, elle est aussi composée d'un jury populaire de six citoyens français qui ont été tirés au sort et qui ont rendu aussi ce verdict. Alors, cette cour d'assises d'Evry, elle a reconnu coupable cet homme de deux viols et d'une agression sexuelle. Elle estime, je cite, que la contrainte morale est caractérisée, notamment face à sa forte insistance et à la pression physique qu'il a exercée sur ses victimes en état de vulnérabilité dans un habitacle fermé, puisqu'on rappelle son mode opératoire. Cet homme, il était à l'époque chauffeur de taxi et il abordait ses victimes de cette manière. Dans ses motivations, la cour, elle parle de la gravité et de la multiplicité des faits. Et puis, en parallèle, la cour, elle explique qu'elle a retenu la situation familiale de l'accusé, qui est père d'un enfant de 2 ans, qui a une bonne situation professionnelle, une bonne insertion professionnelle, le fait qu'il n'avait commis aucune infraction depuis 2016 et qu'il était suivi par un psychothérapeute depuis 10 ans. Cet homme, il risquait jusqu'à 15 ans de prison. Effectivement, le parquet avait requis 12 ans de prison à son encontre et le parquet a donc décidé de faire appel après ce verdict, puisque cet homme, il a été condamné à une peine de 6 ans de prison, dont 2 ans ferme, une peine qui est donc aménageable et qu'il va effectuer sous bracelet électronique. Et l'appel du parquet signifie qu'il y aura donc un nouveau procès.
Merci beaucoup, Marie, de nous avoir remis tout ça un petit peu en perspective. On reste ensemble. Juste après le flash de Mickaël Dos Santos, j'aimerais vous faire partager le témoignage de la mère de Samantha, qui est une autre plaignante dans ce dossier, victime du même agresseur et qui nous fait l'honneur de répondre à nos questions. C'est juste après le flash. On vous retrouve, Mickaël.
Un record négatif pour l'inflation au sein de la zone euro ce vendredi. Eurostat a annoncé une hausse de 8,1% par rapport à juin dernier, une valeur jamais atteinte depuis 1997. La guerre en Ukraine a provoqué une flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation. La France est moins impactée que ses voisins européens. L'épouse d'un chasseur mise en examen 27 ans après le meurtre de son mari. L'homme avait été retrouvé décapité dans l'Allier. La femme de 56 ans ne reconnaît pas les faits malgré des indices graves et concordants. Une dispute à cause d'un sèche-cheveux avait éclaté le soir même. Les investigations se poursuivent. Et puis l'éducation nationale va porter plainte après la fuite de sujets du brevet sur les réseaux sociaux. Des sujets de secours vont être distribués ce vendredi pour les épreuves d'histoire, géographie et de sciences. En 2019, les énoncés de mathématiques de la filière générale avaient déjà été divulgués sur WhatsApp et sur SMS.
Merci beaucoup. Je vous le disais, nous sommes en direct via Skype avec Alexandra. Bonjour madame. Alexandra, vous êtes la mère de Samantha. Votre fille a été victime de viol, victime du même agresseur. Merci de répondre à nos questions. J'imagine que c'est encore pénible pour vous, douloureux sans doute de répondre à tout cela. J'aimerais savoir quelle justice a été décidé et passé pour Samantha aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de l'affaire ? Est-ce que votre fille était plaignante dans cette affaire ? Est-ce que l'agresseur a été condamné dans ce volet, dans ce versant de l'affaire ?
Oui, il a été rendu coupable des faits dont ma fille a eu le courage de porter plainte à la gendarmerie, où elle a été très bien reçue, elle a été crue. Ensuite, elle est allée à la BRI de la Palaiseau, convoquée à la BRI de Palaiseau, où l'adjudant-chef Caillou, peu importe, a fait une super enquête, a retrouvé plein de victimes, a fait une enquête très approfondie. Ça a pris du temps, c'est peut-être aussi pour ça que ça a pris un petit peu de temps avant que ce soit jugé, mais enfin, hormis le reste, en sachant que ce chauffeur n'avait plus son permis. Il était en perte de permis de conduire. Donc déjà, il était en infraction, il était déjà en sursis de cette infraction-là. Donc elle a porté plainte et puis on a attendu 6 ans pour ce procès. Donc j'ai porté ma fille à bout de bras. On parle souvent de soins pour lui, mais et les filles, et Karine et Samantha, quels soins on leur propose ? Pas grand-chose, franchement pas grand-chose.
Comment va-t-elle aujourd'hui ?
Aujourd'hui, mal. Elle allait mieux. Elle attendait justement, ça allait mieux. Là, elle était en pente vraiment ascendante. Et le résultat de ce procès, ça a remis tout à zéro, quoi.
Vous êtes dans l'incompréhension par rapport peut-être aux circonstances, on va dire, atténuantes qu'on a trouvées pour laisser cet homme avec une peine aménageable en liberté, muni d'un bracelet électronique. Ça vous dites qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est révoltant, le bracelet électronique, il ne l'a pas. Pour l'instant, il est libre. Il est juste libre. C'est tout. Il n'a absolument pas de bracelet. Donc, il est reparti avec sa femme. Il est tombé dans les bras de son avocat, ça on l'a déjà dit, tout content d'avoir gagné. Mais gagné quoi? Gagné quoi? Enfin bon. Oui, voilà. Donc, c'est compliqué. Oui, non, ma fille va très très mal. Ça, c'est évident. Elles ont témoigné toutes les deux. Hein, ma fille restait une heure et demie, je crois, à la barre pour témoigner. Moi, j'ai pas pu. Elle a pas voulu que j'assiste à tout le procès. Juste, je suis allée pour le verdict. Donc, j'ai pu voir cet homme juste au verdict et qui a bien préparé son coup, hein, pour pouvoir avoir cet aménagement de peine en faisant une famille, en ayant un enfant. Donc, c'est sûr, ben, ça, les jurés, ben, ils sont sensibles à ça, quoi.
On parle de 12 jeunes filles, semble-t-il, qui agissaient selon le même mode opératoire. J'imagine que ça a été le cas pour votre fille également. C'est-à-dire, sous de faux prétextes, se présenter comme un chauffeur lambda de taxi et puis traquer,
oui, bien sûr, d'une certaine manière, sa victime. Les coincer dans une voiture, leur faire peur. Et voilà, après, c'est la sidération. T'es enfermé dans un endroit, t'as peur. T'as juste peur, quoi. Alors, donc voilà. Oui, 12 jeunes filles, parce qu'il y a eu un gendarme qui a fait son boulot et qui a fait un très bon travail. Et après, pourquoi au résultat le laisser libre? Je pense que c'est assez récurrent.
On parlait tout à l'heure de la manière d'encourager les femmes à porter plainte, à se rendre dans les commissariats, à l'accueil. Visiblement, là, vous dans votre cas, c'était une gendarmerie, mais ça s'est bien passé. Donc, ça a été un cas d'école.
Pas pour Karine,
mais pour vous, pour votre fille. Voilà. Elle a été reçue dans de bonnes conditions. Donc, on voit que c'est un travail encore perfectible à l'échelle nationale. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes filles, peut-être qui n'ont pas porté plainte, dans ce dossier? Comment les encourager à aller plus loin?
Avec ce verdict de le laisser en liberté, vous croyez qu'elles vont vouloir venir? De peur peut-être qu'il soit remis en liberté, parce qu'il a toutes les adresses, taxi, donc forcément. Vous m'entendez encore?
Oui, bien sûr, allez-y.
D'accord. Il a toutes les adresses quasiment, puisqu'il était taxi. Il a été taxi, il a été photographe, il n'a pas fait que taxi. Hein. Là, on lui enlève sa plaque. Enfin, non, on ne lui enlève pas sa plaque, puisqu'on lui laisse quand même travailler avec des taxis. Donc non, les autres filles, ça a été photographe, ça a été plein d'autres choses qu'il a fait pour pouvoir aborder les jeunes filles. Hein. Il y a pas que le taxi, c'est bien, c'est enfermé.
Alexandra, le parquet fait appel de la décision, donc on peut espérer qu'il y ait quand même une suite judiciaire autre. Bien vous sûr, y croyez encore en cette justice, vous?
Eh bien, j'attends les résultats, parce que là, j'ai pas envie d'attendre 3 ans, quoi.
Bien sûr.
Là, je veux que ça se réveille maintenant. Que M. Dupond-Moretti, là, qui a peut-être changé la date ou pas au bon moment pour nous, ça n'a pas été forcément favorable. Moi, je veux qu'il aille en prison, hein, parce que le voir sortir libre, en étant sur les 3 chefs d'accusation coupables, le jury populaire, il y avait quand même 2 magistrats, ils ont peut-être été guidés, mais il a été reconnu coupable sur les 3 faits. Donc il n'y a aucun doute là-dessus.
Merci beaucoup Alexandra, merci d'avoir accepté de témoigner sur l'antenne de CNews cet après-midi. Votre témoignage est évidemment édifiant et il pointe beaucoup d'aspects qu'on va commenter avec nos invités. Merci.
Et toute notre famille, excusez-moi une dernière chose, toute notre famille souffre aussi. Parce qu'on parle beaucoup de la sienne, mais on ne parle pas beaucoup de la nôtre.
Mais j'imagine le courage
qui a dû être... Tout notre entourage, c'est une horreur.
J'imagine le courage qui a dû être le vôtre pour vous rendre dans cette salle d'audience au moment du verdict. Ouais. J'imagine que vous avez dû prendre sur vous également et on vous souhaite évidemment un bon rétablissement.
Heureusement que les avocats m'ont retenu. Hein.
Merci madame, merci beaucoup pour vos mots précieux et on va s'appuyer dessus pour continuer à commenter cette affaire. Il y a plusieurs choses, Marc Hainaut, qu'on retiendra. Elle l'a pointé, la nécessité selon elle d'avoir toujours recours à des jurys populaires en lieu et place de cette professionnalisation hein, finalement des cours d'assises avec les magistrats professionnels. Et il y a une deuxième chose surtout qu'elle nous dit, c'est la lenteur de cette justice. Ça fait 6 ans que les faits se sont déroulés. Pour l'issue qu'on connaît en plus. Et surtout, voilà, elle est dans un grand désarroi parce qu'il y a une longue attente pour quelque chose de tout à fait décevant du point de vue des victimes.
Oui, il y a énormément de choses. Alors, c'est coutumier de le dire, mais quand on dit que le ministère de la Justice est en voie de clochardisation, c'est pas juste une expression, c'est une réalité. C'est un ministère qui manque cruellement de moyens. C'est un ministère qui a du mal à avoir un rythme normal pour le suivi des affaires. On le voit, 6 ans d'attente pour un procès pour viol, c'est quand même énorme. Elle a bien fait de le rappeler, d'ailleurs, qu'il y a les victimes, il y a aussi l'entourage des victimes. Enfin, je lisais un papier dans Libération, là, au sujet de la peine incompressible subie par Salah Abdeslam, où le ce journaliste ou ce chercheur disait c'est horrible pour Salah Abdeslam parce que en le condamnant à 30 ans de réclusion incompressible, on le prive du droit à l'espoir. Mais le droit à l'espoir, est-ce que les victimes de Salah Abdeslam ont eu le droit de vivre? Est-ce que l'entourage de ces victimes ont le droit à l'espoir de revoir leurs proches? Non. Et en fait, lorsqu'on fait une victime, on s'attaque aussi à l'intégralité de la famille. Et je trouve qu'elle a bien fait de le rappeler parce que derrière, c'est cette mère qui porte à bout de bras son enfant depuis 5 ans, 6 ans. Elle aussi, dans une moindre mesure évidemment, mais elle aussi, sa vie a été brisée par cette personne. Et juste, je rappelle une chose, le parquet a fait appel après la publication sur Instagram de la victime, il me semble. C'est-à-dire qu'en plus, on pourrait même s'imaginer que si cette personne n'avait pas attaqué la justice, entre guillemets, ouais, peut-être que le parquet n'aurait jamais fait appel. Et c'est pour ça que vous avez dit que les magistrats devraient avoir un porte-parole. Je pense que la justice aura aussi à s'expliquer là-dessus, qu'elle explique les raisons de cet appel. Et j'espère que ce n'est pas juste parce que la victime a attaqué.
Il est toujours bon de le rappeler, merci. Joséphine Staron, on imagine aussi le trauma supplémentaire, elle le dit bien cette dame, d'imaginer que cet individu soit encore dehors. Et notamment pour les autres qui n'ont pas porté plainte et qui sans doute vont être freinés secs dans leur élan, hein, d'une certaine manière.
Ce qui est très compliqué, c'est que effectivement, une telle décision de justice, quelles qu'en soient les motivations, ne va pas être de nature à inciter les femmes qui sont victimes d'agressions ou de viols à aller porter plainte. Ça ne va pas les inciter davantage. Il y a un aspect aussi politique de cette décision, comme ça a été rappelé. On est quand même dans un quinquennat, et le précédent, pareil, qui sont marqués sous le signe de l'égalité femmes-hommes. C'est un combat que veut mener le président de la République et la première ministre Elisabeth Borne. Donc ça va forcément avoir beaucoup plus d'écho que, je dirais, une simple décision de justice. Ça va avoir un écho politique, ça on a déjà, ça a été médiatisé par les victimes et effectivement, force est de constater aujourd'hui que malheureusement, dans le cadre de notre système judiciaire, parfois la médiatisation est le seul recours des victimes qui se sentent floué par la justice pour essayer d'obtenir une autre justice, une justice.
Ça fait parfois plaisir aussi aux médias que nous sommes, qui sommes vilipendés parfois et accusés de mettre de l'huile sur le feu, mais parfois il y a aussi des aspects plutôt salvateurs à pouvoir médiatiser une affaire de la sorte. Jean-Louis Burgat, on est un peu pris par le temps, mais il y a aussi l'idée que l'engorgement des prisons et le manque de place permet aussi à des individus comme lui de voir leur peine aménagée. C'est aussi en filigrane le vrai problème de notre société. Cet engorgement des prisons qui fait qu'on aménage plus volontiers les peines.
Et un problème qui est géré par des juges qui sont de temps en temps assez contestés, qui sont les juges d'application des peines, qui aménagent les peines et qui malheureusement aménagent souvent les peines en fonction des dispositions qu'ils ont pour tenter de réintégrer ou de réinsérer dans la société. Effectivement, dans ce cas, je crois d'abord c'est une cour d'assises, il faut le rappeler, qui a jugé. Et ensuite, la peine a tout de même été aménagée. C'est ça qui est une vraie question.
Ouais, c'est peut-être un peu plus surprenant. On va devoir s'interrompre, marquer une petite pause. Et puis on parlera aussi d'un autre phénomène, c'est ce drame qui s'est déroulé à Nice il y a quelques jours. Ce petit garçon ukrainien renversé par une trottinette qui roulait à vive allure sur la promenade des Anglais. Et il en est mort, cet enfant. Alors évidemment, c'est un drame familial, un drame de notre époque aussi, puisque sa famille était réfugiée d'Ukraine. On sera sur place parce que Christian Estrosi a réagi à notre micro tout à l'heure. Et il propose, lui, des solutions pour tenter d'endiguer ce qu'il considère comme un fléau. On verra si ces trottinettes nous empoisonnent la vie au quotidien. À tout à l'heure. On entame une nouvelle demi-heure de Midi News juste après le Flash Info de Mickaël Dos Santos, à nouveau.
C'est l'une des nouveautés du 1er juillet. Les nouvelles voitures seront obligatoirement équipées de boîtes noires. Cela vise à enregistrer des données comme la vitesse, le port de la ceinture ou encore la force de collision avant et après un accident. Des mesures très utiles lors des enquêtes. Le congé paternité a 20 ans aujourd'hui. Depuis 2021, il a été rallongé de 14 à 28 jours en France. Cela permet de rééquilibrer les tâches familiales et de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et puis au moins 14 morts et plus d'une trentaine de blessés lors de nouvelles frappes à Odessa. Des missiles ont été tirés par des avions russes sur des immeubles dans cette ville du sud de l'Ukraine. Les opérations de sauvetage se poursuivent malgré les incendies dans certains bâtiments.
Merci beaucoup, Mickaël, et à tout à l'heure pour un nouveau Flash Info. Toujours en compagnie de Joséphine Starron, Marc Hainaut et Jean-Louis Burga autour de cette table. On aborde une autre séquence de cette émission et on va parler de ce petit garçon ukrainien dont la famille est réfugiée en France depuis plusieurs semaines et qui est mort jeudi. Donc hier, à Nice, après avoir été heurté par une trottinette électrique, cette trottinette qui roulait à une vitesse excessive, avant de se pencher sur cette question et de voir aussi la réaction du premier élu, à savoir Christian Estrosi, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé avec Augustin Donadieu.
Le drame s'est déroulé en une fraction de seconde. Il était 21h mercredi soir lorsqu'un enfant qui se promenait avec sa mère a été percuté par une trottinette roulant à vive allure. Selon le procureur, il a été fauché au niveau d'un passage piéton sur une piste cyclable sur la promenade des Anglais. Le petit Ukrainien, âgé de 5 ans, a succombé à ses blessures.
Ce petit garçon disparu dans ces conditions aussi tragiques est un message qui doit nous donner envie d'adresser à la communauté ukrainienne tout entière un message d'émotion et de solidarité à leur encontre.
Ce n'est pas la première fois qu'une trottinette se retrouve impliquée dans un accident mortel. En 2021, la sécurité routière a recensé 22 personnes tuées à la suite d'un accident avec ses deux roues électriques.
La trottinette électrique est un engin motorisé. Et à ce titre-là, on doit respecter une réglementation et bien faire passer ce message-là. Je dis bien dans la pédagogie et dans la sanction.
Le conducteur de la trottinette, un quadragénaire, n'aurait pas consommé d'alcool selon les premiers prélèvements effectués. Il a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Le père du petit garçon, bloqué en Ukraine pour les combats, a obtenu l'autorisation de rejoindre sa famille en France.
Oui, Joséphine Starron, je vous vois vivement réagir à la vue de ces images. Évidemment, c'est un destin tragique, ça nous fait évidemment beaucoup de peine pour cette famille. Il y a une dimension émotionnelle, parce qu'on le rappelle, la famille est arrivée en France au début de l'invasion russe. D'ailleurs, son père va être démobilisé et arrivera bientôt pour venir au chevet de sa famille. Voilà, une double histoire tragique, cette famille qui pensait trouver refuge dans un pays en paix et qui se retrouve comme ça... avec une famille explosée dans des circonstances incompréhensibles, forcément, ça nous prend un peu aux tripes, quoi. Avant d'en venir vraiment à la question des trottinettes.
Oui, c'est tragique, c'est la double peine pour cette famille-là. Enfin, c'est difficilement concevable. Après, pour en revenir à la thématique de la trottinette, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que ça fait des années que dans toutes les grandes villes de France, on met en garde contre, on va dire, le bazar qui est de plus en plus prégnant dans l'espace public. On a une thématique importante qui est celle de l'aménagement du territoire, de l'aménagement de l'espace public, avec aujourd'hui des règles qui ne sont pas respectées, voire des règles qui, pour certains types de mobilité, n'existent même pas.
Oui, ce n'est pas propre aux trottinettes. On aura l'occasion d'y revenir. On pourrait aussi évoquer les vélos, notamment pour ceux qui habitent à Paris. C'est un problème... assez récurrent. J'aimerais quand même qu'on s'attache à la réaction de Christian Estrosi. Depuis hier, évidemment, il fait part de son émotion, immense émotion, a-t-il dit, mais il est aussi en opposition frontale avec les trottinettes qui sont en libre-service, et il fait même des suggestions avec des solutions possibles, selon lui, pour éviter ce drame. En tout cas, c'est ce qu'il compte mettre en place dans sa localité. Écoutez.
D'abord, je fais un appel national. Je demande à ce que les maires puissent avoir le pouvoir de décider chacun librement dans leur ville et pas une réglementation nationale votée par le Parlement, décidée par l'État, d'avoir la liberté de décider si on veut ou pas des trottinettes sur des pistes cyclables. Ça n'est pas leur place. Ça n'est pas leur place de rouler sur un trottoir. D'ailleurs, y compris les vélos sur les zones piétonnes, j'ai pris un arrêté pour que ça ne soit pas possible d'être confronté avec les piétons. Les piétons doivent être protégés, les cyclistes doivent être protégés et les engins à moteur doivent circuler sur les voies exclusivement réservées aux engins à moteur.
Marc Hainaut, voilà, il va falloir qu'on établisse des règles un petit peu plus claires parce qu'on a l'impression effectivement que beaucoup de ceux qui s'adonnent à ces nouvelles activités de mobilité s'affranchissent des règles un petit peu. Hein. Oui. On le voit avec des cyclistes qui passent au feu rouge, enfin on ne comprend pas très bien. On se dit à chaque fois qu'on évite la catastrophe. Enfin, c'est quelque chose qu'on aperçoit tous les uns et les autres dans des grands centres urbains au quotidien quand même.
D'une part, un petit mot, c'est abominable en fait pour cette famille ukrainienne parce que quand on discute avec des soldats ukrainiens ou des engagés volontaires, ils vous expliquent explique que c'est beaucoup plus simple de se battre pour son pays quand on sait que sa famille est en sécurité, loin des combats.
C'est ce que je disais, c'est la double peine. Ouais, voilà, comme
voilà, c'est abominable là, sur ce point de vue-là. Et sur la trottinette, alors moi, ça fait des années que je milite localement pour que ces engins disparaissent, parce que vous avez raison, ils sont arrivés du jour au lendemain en fait dans un espace urbain qui n'est pas aménagé pour ça. Le problème de la trottinette, c'est quand vous êtes sur la route avec, vous mettez en danger parce que c'est un véhicule qui n'est pas adapté pour rouler sur la route et qui n'est pas non plus adapté pour rouler ni sur les trottoirs ni sur les pistes cyclables. Donc en fait, on a des engins qui ont été imposés du jour au lendemain par dizaines, par centaines dans les différentes agglomérations, et à aucun moment il y a eu un travail de réflexion sur comment est-ce qu'on intègre ces engins de mobilité dans l'espace urbain, comment est-ce qu'on met en place des zones spéciales, est-ce que c'est un véhicule qui est censé aller sur la route, est-ce que c'est un véhicule qui est censé aller sur une piste cyclable, est-ce que c'est un véhicule qui peut aller sur le trottoir. Et en fait, toutes ces questions, il n'y a eu jamais de réponse à ces questions en fait, et du coup on se retrouve avec des municipalités complètement dépassées, des municipalités qui ne savent pas comment réagir, et des maires qui sont obligés de publier ça et là, comme Christian Estrosi, des arrêtés un petit peu bricolés, parce que il faut résoudre le problème. Et les accidents de trottinette, d'ailleurs ça concerne d'abord les utilisateurs eux-mêmes qui sont fauchés par des voitures, parce qu'en plus c'est un petit véhicule, donc ça se voit pas, qui est très vite dans l'angle mort, et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un véhicule qui n'est pas adapté en fait aux villes françaises, tout simplement.
On peut aussi parler de ceux qui portent pas le casque, effectivement.
Aussi, accessoirement, oui, mais ça.
Parce que la législation, elle n'est pas très claire en la matière, justement.
On ne peut pas faire porter des casques aux piétons qui croisent des trottinettes, quoi.
Non, ça. Mais aux trottinettes.
Oui, bien sûr.
Mais eux aussi, ils peuvent se prendre un choc frontal avec les voitures. Enfin, je veux dire,
oui, bien sûr.
La sécurité,
oui, c'est pour tous,
quand même. Jean-Louis Burga, il pose une question intéressante. À un moment donné, est-ce qu'il va falloir légiférer sur ces questions, au-delà de prendre de simples arrêtés municipaux, et donc mettre tout le monde au diapason sur l'ensemble de l'Hexagone?
Ça, c'est pas habituel, mais moi, là, je vote Christian Estrosi. J'adore tout
ce qui bouge. Une fois n'est pas coutume.
J'adore tout ce qui bouge. J'adore rouler en voiture, rouler à moto. J'ai eu des deux roues, j'ai eu tant de choses. Et pour moi, la trottinette est l'engin antinomique à la mobilité urbaine aujourd'hui. D'abord, c'est un engin dangereux. Il y a des petits trous. Quand vous passez avec une petite roue dans un trou sur une chaussée, et les chaussées de la plupart de nos grandes villes, malheureusement, sont pleines. Vous faites un vol plané. Les hôpitaux sont pleins de gosses avec les poignets fracassés. C'est ce qu'on racontait un médecin. Et les fractures du poignet sont des fractures très difficiles à réparer d'après ce que m'ont raconté les médecins. Donc vous avez des gosses qui, après avoir un accident de trottinette, sont quasiment handicapés pendant des mois, parfois des années. Ensuite, la trottinette en soi, c'était pas moi quand on était gamin, on avait ce qu'on appelait des patinettes. D'ailleurs, c'était un truc qu'on poussait avec le pied.
On faisait le même concept.
Les trottinettes électriques. Non, les trottinettes électriques.
C'était pas électrique, malheureusement, évidemment.
Ça n'a rien à voir. Une trottinette électrique, c'est un engin extrêmement mal foutu qui roule à toute vitesse. Et qui ne respecte pas les lois de la circulation en ville.
Alors en plus, elles sont peu visibles. Surtout la nuit. Elles font pas de bruit. Alors elles font pas de bruit. Donc quand elles arrivent dans votre périmètre, que vous êtes amené à la croiser, autant vous dire que il vaut mieux être hyper, ultra vigilant. Et puis surtout, donc, il y a la question de ces engins qui sont débridés. Il va peut-être falloir se pencher sur la manière de brider réellement la vitesse de ces nouveaux engins.
Comme toute nouvelle technologie ou comme toute nouveauté dans l'espace public, il y a toujours des dérives, il y a toujours des personnes qui cherchent à aller plus loin. C'est le cas avec ces fameux débridages de trottinettes, mais on en parlait il y a déjà quelques années. Hein, on voyait bien toute une population très jeune s'amuser à être à plusieurs sur des micro-trottinettes qui allaient très très vite, bien plus vite que la limite autorisée. Donc ce n'est pas nouveau. En revanche, rien n'a été fait. Depuis, ou presque rien. Et comme vous le disiez, on laisse les collectivités se débrouiller comme elles peuvent avec des arrêtés ponctuels ou non, mais sans vraie réflexion sur l'espace public aujourd'hui.
Il faudrait faire un code de la route de la trottinette ou un code des deux roues.
Il faut un code de la route pour tout le monde. Les piétons ont un code de la route à respecter. Les vélos devraient s'arrêter au feu rouge et il devrait y avoir des sanctions lorsque ce n'est pas le cas. Moi, je prends toujours l'image, parce que j'habite à Paris, donc c'est parfois un peu chaotique, effectivement, l'espace public. Je prends toujours l'image d'un stade de football.
On n'a pas prononcé le nom d'Anne Hidalgo encore. Je suis très stressée.
Non, je vous parle de la ville. Mais prenez un stade de football et mettez-y des golfeurs, des tennisman, des rugbyman, des footballeurs et voyez ce qui se passe. Il ne faudra pas beaucoup de temps avant qu'il y ait des blessés, voire des blessés graves. Les grandes villes aujourd'hui, les grands centres urbains, c'est pareil parce qu'il n'y a pas de respect des codes de la route. Donc peut-être qu'il faudrait déjà, un, rappeler ce code de la route et deux, le faire respecter avec des agents qui seraient présents sur la voie publique.
On a beaucoup de difficultés. C'est un des problèmes de notre pays aujourd'hui. Beaucoup de difficultés à faire respecter la loi. Alors pourquoi introduire encore des instruments qui sont incontrôlables? Les trottinettes sont incontrôlables. Les policiers avec qui vous discutez sur les Champs-Élysées...
D'accord, bah alors qu'est-ce qu'on fait?
Vous savez qu'ils ont tenté...
Si on n'a pas de moyens...
De les attraper avec des filets. Parce qu'il y avait des gosses qui faisaient des courses en descendant les Champs-Élysées, des courses de trottinettes, il y a 6 mois.
Alors, s'il n'y a pas le moyen coercitif, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous interdisez leur vente?
On interdit tout simplement. Mais tout simplement, les trottinettes, c'est un engin qui est rétrograde dans l'histoire de notre mobilité. C'est rétrograde. Il y a des vélos, il y a des voitures, il y a tout un tas de choses. Il y a des vélos aujourd'hui qui sont extraordinairement bien équipés. Il y a des vélos qui ne coûtent pas cher. Il y a tout un tas de choses qui font qu'on peut rouler d'une façon en sécurité. Mais quand je vois des parents qui laissent des gosses de 12 ans ou moins parfois, prendre ces trottinettes, les louer pour leurs enfants et les laisser circuler à un, à deux sur des routes encombrées au milieu des piétons, je dis que la trottinette, c'est un scandale.
Il est pire que vous encore, il dit que c'est rétrograde et que c'est un scandale.
Non, mais j'allais encore plus loin parce
que... c'est la surenchère maintenant.
Déjà, c'est des instruments qui sont très facilement piratables a priori, donc il n'y a même pas forcément besoin des parents en fait pour prendre le contrôle de ces véhicules-là. Et en fait, vous avez raison, c'est un véhicule qui n'est pas adapté, qui est mis en place à un moment où on voit quand même un recul spectaculaire du civisme pour rester courtois dans l'espace public, où on voit de plus en plus de bandes de jeunes qui finalement on s'aperçoit qu'ils respectent, il y a plus trop de respect de vivre ensemble et de vivre en société. Et quand vous donnez en plus à ces gens-là des trottinettes qui vont vite, qui sont débridables, qui sont mal adaptées à l'espace public, et ben vous avez des drames. Pas plus tard que ce matin, j'étais avec mon fils de 2 ans sur le quai d'une gare, il y a un type qui passe en trottinette, donc sur le quai de la gare, au lieu de descendre de son engin et de
il roulait
dessus.
Ça c'est interdit.
Il est passé à 1 mètre de mon gamin. Alors, il l'avait vu, évidemment, je ne me suis pas senti en danger, mais en fait, on se dit, à chaque instant, maintenant, il faut faire attention, à chaque instant, on peut voir un type comme ça surgir dans votre dos.
On espère quand même qu'il n'était pas à 40 à l'heure dans la gare.
Non, il était à une vitesse raisonnable, mais n'empêche, il était sur sa trottinette électrique, alors que vous ne verrez personne sur son vélo en train de.
Mais normalement, on est censé.
Sauf que les trottinettes sont entre les deux, en fait, ils se disent, ça passe, quoi.
Alors, la réglementation est souvent en retard par rapport à l'arrivée de nouvelles technologies ou de nouvelles mobilités. C'est le cas aujourd'hui. Moi, je ne pense pas qu'il faille interdire les trottinettes dans l'espace public. Ce serait pénaliser tous les usagers de cette nouvelle mobilité qui, eux, s'en sortent bien, respectent quand même les règles. Mais en revanche, ce qu'il faut, c'est des règles. Et c'est des règles appliquées et connues par tous.
Pourquoi pas imaginer que ça ne sert à rien pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas verbaliser adéquatement.
On est dans un pays où on rajoute des lois, on a une sorte de maladie de la loi, des règles, etc. Et malheureusement, on est dans une période aujourd'hui où, vous le savez bien, les services d'ordre, la police, ont beaucoup de difficultés à faire respecter même les lois basiques qui sont, par exemple, avoir un permis de conduire pour une voiture.
La Seine-et-Rhône,
beaucoup de gens qui roulent sans permis de conduire pour la voiture et vous allez contrôler les trottinettes.
Non, je suis d'accord avec vous, ce contrôle-là sera peut-être difficile, mais on peut réfléchir aussi en amont. Pourquoi ne pas imaginer, étant donné que c'est un véhicule motorisé, une forme de permis, pas avant 18 ans, par exemple, avec des règles précises, et que pour acheter une trottinette, il faille d'abord pouvoir montrer un permis.
Peut-être que ça en dissuadera quelques-uns. Si on commence à faire passer des permis, il y aura sans doute moins de candidats au voyage, et peut-être que ce sera la mort de la trottinette.
Interdire les trottinettes.
D'accord. Ah ben vraiment, Jean-Louis.
C'est un enjeu.
Jean-Louis, il est catégorique sur la question. Oui, ouais. Allez, on va s'interrompre. On revient un petit peu sur cet aspect parce que j'aimerais vous interroger dans les quelques minutes qui va nous rester sur les incivilités. Vous m'avez un petit peu mis la puce à l'oreille tout à l'heure. Le manque de civisme, le diktat, parfois, de ceux qui roulent, qui sont à deux roues, versus ceux qui sont piétons ou dans des véhicules motorisés autres, c'est-à-dire les quatre roues. On verra s'il y a une guerre des clans, une guerre de tranchées qui est en train de se mettre en place. Ce sera juste après le Flash Info de Mickaël Dos Santos.
Fin du procès du violeur de la Sambre. Ce vendredi, la cour d'assises du Nord rend son verdict au procès de Dino Scala. 20 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et d'agression sexuelle près de la frontière franco-belge ont été requis par le parquet. L'homme de 61 ans reconnaît 40 des 56 faits qui lui sont reprochés. Grève dans les aéroports français. Ce vendredi et tout le week-end, plusieurs syndicats et des salariés vont réclamer des hausses de salaire au vu de l'inflation. À une semaine des vacances scolaires, ces mouvements sociaux pourraient provoquer
des retards et des annulations. Et puis c'est un nouveau défi pour Nathan Paulin. À Rouen, le funambule va traverser ce soir la Seine sur un fil tendu reliant la cathédrale à la tour des archives. Un défi réalisé à 90 mètres de hauteur. Nathan Paulin avait battu le record du monde de distance de la discipline au Mont-Saint-Michel en mai dernier.
Merci beaucoup Mickaël, à tout à l'heure. On parle évidemment de ce petit garçon de 5 ans qui se promenait voilà, paisiblement. Il avait retrouvé la paix et la sérénité avec sa maman et sa famille alors qu'il avait fui les combats en Ukraine. Et voilà, sa vie a été fauchée par une trottinette qui roulait à vive allure. Ça a beaucoup choqué à la fois à Nice, Christian Estrosi qui s'est exprimé tout à l'heure face aux journalistes. On va peut-être l'écouter d'ailleurs, le maire de Nice, parce qu'à la fois il a donné des suggestions, mais il est revenu aussi sur ce mal qui nous ronge.
C'est un petit garçon de 5 ans, tout simplement, qui pourrait être de n'importe quelle nationalité, française, citoyen de notre ville, visiteur. Et nous avons tous les jours, dans toutes les grandes villes de France, une réalité. C'est qu'il y a un problème de cohabitation entre les trottinettes, d'autres engins motorisés, les vélos, les piétons, et il ne peut plus y avoir de cohabitation permanente entre tous ces engins. Moi, j'ai aménagé des pistes cyclables qui sont exemplaires ici et reconnues comme telles. Et je n'ai pas le droit, parce que l'État a décidé que tous les engins qui ne dépassaient pas 25 km/h, même motorisés, avaient le droit d'emprunter une piste cyclable.
Voilà, un début de réponse déjà au débat qui nous anime depuis tout à l'heure. Marc Hainaut pour Boulevard Voltaire. J'aimerais qu'on revienne à ce que moi j'appellerais une forme de diktat des trottinettes et des cyclistes qui vous font un peu la morale, qui sont parfois agressifs, qui pensent que un peu tout leur est... Pardon, hein, vous aurez bien compris que je suis dans aucune de ces catégories. Qui font un peu la morale aux autres en disant « mais poussez-vous, pousse-toi de là que je m'y mette hein, », d'une certaine manière. Il y a un côté un peu usant à la longue.
Oui, mais en fait, on parle souvent Jérôme Fourquet qui parlait de l'archipélisation, et je pense que ça marche aussi dans les villes. Il y a effectivement, comme on est... je sais pas, comme une poussée d'individualisme ou en fait où chacun s'identifie un peu à lui. Donc si on va s'identifier en tant que cycliste, on va faire progresser la cause des cyclistes. Si on s'identifie en tant qu'automobiliste,
c'est la guerre des boutons, quoi.
Oui, il y a un petit peu. Non, mais il y a un petit peu de ça. Il y a un côté, ça prouve qu'en tout cas, il y a un véritable problème de politique publique, de vivre ensemble au sens strict, en fait, de chacun. En fait, finalement, les gens cohabitent les uns à côté des autres, et puis on s'aperçoit que quand le confort des uns progresse, celui des autres régresse, et finalement, peut-être un schéma de politique urbaine mal pensé qui fait que chacun est monté l'un contre l'autre, en fait, alors que à la base ça vient tout simplement d'une mauvaise politique urbaine et d'une mauvaise gestion, en fait, tout simplement.
Joséphine Staron, je m'adresse à la docteure en philosophie politique que vous êtes pour dire quand même ces incivilités, ça traduit là. Philosopher un petit peu sur ça, sur notre société, ça traduit quand même l'hyper-individualisation qui est en train de nous guetter.
Ça traduit plusieurs choses. Certes, ça traduit effectivement ce côté très individualiste qui est exacerbé dans nos sociétés occidentales, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'il y a 10 ans. Ça remonte quand même maintenant à un certain temps et à un long mouvement, une longue tendance de fond vers cet individualisme. Mais il y a plusieurs choses que cette anecdote qui n'en est pas une, mais autour des mobilités urbaines. Ce que ça révèle, c'est que puisqu'on est dans un espace public qui n'a pas de règles, ou s'il y a des règles communes, elles ne sont pas respectées et elles ne sont pas appliquées. Eh bien, le chacun pour soi prévaut. Chacun va forcément défendre sa manière d'être, sa manière de voir sa mobilité comme étant la meilleure. Et on a effectivement, vous le disiez, une situation absurde aujourd'hui dans laquelle il n'y a pas de cohabitation pacifique, comme le souhaite M. Estrosi, entre les différents utilisateurs de différentes mobilités. Ouais. Il y a au contraire une rivalité. Et maintenant, être cycliste ou conduire une voiture, ou même être piéton, ou avoir une trottinette, ça devient un combat. Pour une certaine partie de ces utilisateurs, ça devient un combat à défendre. Je suis cycliste parce que j'ai des valeurs écologistes que vous, utilisateurs de voitures, n'avez pas. Je suis conducteur...
Ce que j'appelais le diktat tout à l'heure.
Oui, mais de l'autre côté, ça radicalise aussi les conducteurs de voitures, ça radicalise les piétons, ça radicalise toute cette population qui, normalement, est censée cohabiter pacifiquement et qui, finalement, n'en peut plus. Ouais. Moi, je suis souvent piétonne. J'en ai marre et des voitures et des bus, parlons des bus à Paris, et des vélos, et bien évidemment des trottinettes, parce qu'à la fin, on ne sait plus du tout dans quel espace public on évolue, je ne sais plus quelles règles je dois suivre. Est-ce que si je traverse sans regarder alors que j'ai le droit de traverser puisque le petit bonhomme est vert, bah non, parce qu'il faut que je fasse attention à tous les vélos qui vont griller le feu, aux trottinettes qui vont griller la priorité, etc. Donc finalement, plus personne ne sait quelles règles respecter. Marc.
Juste, c'est intéressant ce que vous dites parce que maintenant que l'INA publie énormément ses contenus et on voit l'évolution en fait en 30 ou 40 ans, c'était mieux avant, mais il y a 30 ou 40 ans, il y avait un agent pour vérifier que les gens traversaient bien quand le petit bonhomme était vert ou en tout cas qui respectait cela. Et en fait, c'est frappant, je trouve, aujourd'hui, plus personne ne respecte ça. Plus personne ne respecte les feux de circulation, de signalisation. Vous avez parlé des cyclistes qui ne se sentent pas concernés par les feux rouges des voitures. Vous avez les piétons qui se disent il y a globalement pas de voiture. Au pire, il y a un vélo, mais il va s'arrêter.
Mais si vous, voiture, vous grillez le feu rouge, vous prenez 4 points.
Dans tous les cas, la voiture est la première punie, ça c'est certain.
C'est
assez nouveau et c'est une preuve de la perte de civisme, en fait. Mais aussi.
Est-ce que vous vous souvenez, tout le monde a vu ces films du début du XXe siècle, où on voit les rues de Paris avec encore des charrettes.
Oui, c'est un peu chaotique. Tout le monde traverse n'importe comment.
Mais tout ça était en train de s'installer tout doucement. Finalement, il y avait les premiers bus, il y avait les premières voitures. Mais c'était une drôle de salade tout de même. Mais enfin, ça s'organisait. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on est revenu à cette situation-là. C'est-à-dire qu'il y a
des trajectoires différentes.
Multiples catégories qui s'imbriquent les unes dans les autres sans savoir exactement qui a la priorité, qui va où, comment roule-t-on. Et l'exemple des trottinettes, pour moi, je reviens une dernière fois parce que révulse énormément ce laisser aller des municipalités face à cet engin extrêmement dangereux pour les enfants.
C'est des marchés publics aussi.
C'est des marchés publics. Et puis ce sont des boutiques de location, de fabrication, etc. Il y a une économie qui commence à être assez importante derrière ça. Mais aujourd'hui...
L'idée première, c'était quand même l'écologie, quoi. C'est-à-dire consommer moins de gaz polluant.
Batteries électriques.
Non, mais à la base, l'idée sous-jacente. Sauf qu'on en voit aussi les limites aujourd'hui.
Que la trottinette.
Vaste sujet, on n'a pas fini d'en parler. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas à notre petit niveau régler le problème aujourd'hui, tous les quatre que nous sommes sur ce plateau. Mais il faudra quand même penser à appliquer quelque chose, que ce soit un code, que ce soit une interdiction, comme le préconise Jean-Louis Burga, ou tout simplement réfléchir à ce que ça dit de l'hypertension de la société aussi et comment on peut se réconcilier les uns avec les autres. On va s'interrompre quelques minutes. On reviendra pour parler d'un autre domaine où ça va très très mal, c'est l'hôpital, bien sûr. Mais des propositions sont émises aujourd'hui. On verra si, sur ces 41 propositions pour tenter de remédier aux tensions dans les urgences, notamment, le gouvernement ira piocher et en retiendra quelques-unes qui seront appliquées immédiatement, car vous l'aurez compris, l'heure est grave. Et bien, ça urge, si vous pouvez me permettre ce petit jeu de mots. À tout à l'heure dans Midi News. De retour avec vous dans Midi News, une deuxième heure qu'on entame à présent avec de nouveaux invités qui m'ont rejoint autour de cette table. Bonjour Caroline Pilastre, merci d'être là. Je rappelle que vous êtes chroniqueuse à Sud Radio. Sébastien Ligné est là également. Bonjour, journaliste à Valeurs Actuelles. Et puis Jean-Louis Burga qui est resté, bien évidemment. On a beaucoup, beaucoup de thèmes à vous soumettre, à commencer par la question de l'hôpital. Ce sera juste après le JT de Mickaël Dorian. Rebonjour Mickaël.
Rebonjour Nelly, bonjour à tous. La ville de Nice, endeuillée par la mort d'un enfant ukrainien de 5 ans ce mercredi, il a été percuté par une trottinette électrique sur la promenade des Anglais. Vive réaction du maire de Nice, Christian Estrosi, qui demande une nouvelle législation sur la pratique de la trottinette. On fait le point avec Stéphanie Rouquier.
Un nouveau drame sur la promenade des Anglais qui touche encore une fois les Niçois. L'accident s'est produit mercredi soir à 19h30. Une maman et son petit garçon de 5 ans traversaient sur un passage piéton à proximité de la promenade des Anglais. Un homme qui conduisait une trottinette à vive allure n'a pas réussi à les éviter. Le garçon a été percuté. Il a succombé à ses blessures. Les habitants que j'ai croisés pensent bien évidemment à la maman de ce petit garçon qui s'était réfugié à Nice pour fuir les bombardements en Ukraine. De nombreux habitants se demandent aujourd'hui comment éviter ce type de drame avec les trottinettes qui se multiplient de plus en plus dans les villes. Le maire de la ville, Christian Estrosi, demande de légiférer sur le sujet. Il voudrait pouvoir interdire les trottinettes des pistes cyclables de sa ville qui sont, d'après lui, des engins à moteur et qui n'ont donc rien à faire sur ces pistes.
Des milliers de voyageurs vont rester sur le tarmac. Aujourd'hui, une partie du personnel d'aéroport de Paris est en grève et les manifestations bloquent plusieurs terminales d'embarquement. Les syndicats réclament une hausse des salaires. Je vous propose d'écouter tout de suite leur réaction.
Vu la vue d'aujourd'hui qu'on a, même pour faire les courses, ça devient super cher. Même pour venir au travail, ça devient cher aussi. Et les conditions de travail aussi, c'est un peu compliqué et délicat.
Nous, ça fait plus de 10 ans. En plus de 10 ans, on a eu à peine 1% d'augmentation de salaire. Et quand on voit l'inflation chaque année, c'est un problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros mécontentement depuis des mois.
Mission accomplie, la France quitte la présidence de l'Union européenne, 6 mois marqués par la crise en Ukraine et une campagne présidentielle. L'occasion de faire un retour sur les faits marquants de ce mandat avec Élodie Huchard.
Une présidence française de l'Union européenne qui a été particulière, évidemment, d'abord en raison du contexte international avec la guerre en Ukraine et puis avec le contexte français aussi, l'élection présidentielle. On se rappelle que certaines oppositions demandaient à Emmanuel Macron de ne pas prendre la présidence tournante et de laisser sa place. Alors évidemment, comme c'est de coutume, il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de conseils des ministres thématique par thématique. Emmanuel Macron qui avait dressé 3 priorités pour ces 6 mois. D'abord, renforcer la souveraineté européenne, définir un nouveau modèle de croissance européen et enfin construire une Europe plus humaine. Alors on va regarder quelques thèmes, notamment sur le plan social, pour lutter contre les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Des accords ont été conclus pour des salaires minimaux dans toute l'Union européenne. Sur le plan de la sécurité, de l'immigration, on sait qu'il y a ce fameux pacte immigration et asile qui se met en place doucement. Eh bien, les premières mesures commencent à être conclues. Et puis, sur le point du climat et de l'écologie, Emmanuel Macron voulait une taxe carbone aux frontières. Des accords entre le Conseil et le Parlement ont été obtenus. Et puis évidemment, ce qui a marqué ces 6 mois, c'est la guerre en Ukraine. L'Union européenne a dû parler d'une seule voix, d'abord apporter son aide à l'Ukraine, une aide, on le sait, qui est à la fois financière, militaire et aussi humaine, et puis parler d'une seule voix aussi pour engager des sanctions contre la Russie. Et puis ça a donné quelques moments diplomatiques forts et importants, notamment quand on a vu Emmanuel Macron avec ses homologues italiens, allemands et roumains se rendre en Ukraine, aller rencontrer le président ukrainien. Et puis il y a eu ce moment historique, comme l'a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel, d'accorder le statut de candidat à la fois à l'Ukraine, à la Moldavie. Évidemment, c'est un pas de plus pour eux pour accéder à l'Union européenne. 6 mois donc de présidence française. Et désormais, c'est la République tchèque qui prend la tête de l'Union européenne.
Dans l'actualité également, c'est le 5e jour du procès de Jean-Marc Reiser aux assises du Bas-Rhin. Cet après-midi, c'est l'accusé qui va être interrogé. La Cour veut savoir ce qui est arrivé à Sophie Le Tan, étudiante tuée et démembrée en 2018. Jean-Marc Reiser avait reconnu les faits et s'était débarrassé du corps dans une forêt vosgienne. Après 2 années gâchées par la pandémie, cette saison balnéaire s'annonce radieuse pour les professionnels du tourisme. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les taux de réservation sont en forte augmentation. Reportage sur la Côte Bleue à Saussay-les-Pins, c'est signé Stéphanie Rouquier.
À quelques mètres de la Grande Bleue, les équipes de cet hôtel de Saussay-les-Pins ont retrouvé le sourire. Après 2 années moroses, cette saison s'annonce riche en touristes.
Pour juillet, il me reste quelques dates où j'ai encore de la place, mais j'ai beaucoup de dates en complet. Voilà, les personnes qui veulent venir chez nous pour une semaine, c'est foutu. Il fallait s'y prendre avant.
Cet apport de chiffre d'affaires va nous permettre d'investir encore plus. Et dans le recrutement, oui, on recrute et on cherche encore.
Dans toute la région, les professionnels du tourisme enregistrent des taux de réservation en forte hausse. Un taux à 71% pour le mois de juillet, en moyenne. Alors qu'en 2019, il n'était que de 55%, alors tous les commerçants revivent.
Les gens respirent, on retrouve d'oxygène. Voilà, c'est vrai, une renaissance, comme vous dites. Ouais.
Et ils achètent ?
Oui. Ça commence à bien redémarrer, oui.
De nombreux hôtels et campings affichent déjà complet, avec en majorité une clientèle française. Mais les touristes étrangers, les Anglais, les Scandinaves, mais aussi les Allemands, les Américains et les Canadiens font leur retour.
Allez, la suite des débats de Midi News avec Nelly Denac et ses invités dans un instant. Mais d'abord, un mot de sport avec le Tour de France qui a débuté aujourd'hui à Copenhague. Le double tenant du titre, le Slovène Tadej Pogacar, reste le grand favori du Tour.
Retrouvez la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure. piscineunibéo.com.
«
La grande boucle démarre, le triplé est dans le viseur de Pogacar. Et pourtant, la pression semble loin de sa formation.
And are you sleeping with each other on a room?
I think so. I spend more time with him than in my wife, but.
Complicité et sourire. Forcément, le double tenant du titre réalise une saison convaincante. Cette victoire, des courses à étapes, l'Estrade Bianche et récemment le Tour de Slovénie.
C'était la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure. Piscineunibeo.com.
Allez, de retour avec vous pour la deuxième partie de cette émission Midi News. Et on va parler de l'hôpital et de ses difficultés. Le mot est faible. L'heure est grave, on le sait. Alors on fait tout ce qu'on peut pour en sortir. Et le président de SAMU Urgences de France, c'est le docteur François Braun. Il a remis hier à Elisabeth Borne ce qu'il appelle les conclusions de sa mission flash pour tenter de répondre à la crise des services d'urgence. Hein, en particulier, on le sait, 120 services d'urgence sont contraints de réduire leur activité faute d'effectifs suffisants. Il y a 41 propositions dans ce rapport. Reste à savoir lesquelles de ces mesures seront retenues par le gouvernement. On va y revenir et on va se pencher sur la question avec Reda Emrah qui a travaillé dessus à la rédaction, mais on va y revenir dans un instant. D'abord, un petit tour de table. Il ne faudrait pas que la montagne accouche d'une souris, parce que ces missions flash, ces rapports... Non, mais c'est vrai qu'on nous annonce à grand renfort de publicité. On se souvient que la dernière fois que ça a été fait pour le plan banlieue, qu'on a appelé le plan Borloo, ça a été retoqué dès la sortie. Donc là, on espère quand même qu'on va s'en inspirer largement.
Et aussi pour le climat,
aussi.
C'est un peu la méthode macronienne. C'est « je fais semblant » de m'intéresser à la vie des autres, je leur demande leur avis, et une fois que l'avis est arrivé, je fais « bon, en fait, non, ça, non. Ouais, en fait, ça, non. Non, moi, je préconise plutôt celle-là. » Donc moi, je veux bien, attendons de voir les propositions, allons voir celles qui sont acceptées. Maintenant, le vrai problème, c'est que pour moi, on est dans une situation et dans un problème qui est endémique, qui date de plusieurs décennies. C'est pas aujourd'hui qu'on va découvrir que l'urgence et le système hospitalier français est en danger de mort. Le Covid, finalement, n'a fait qu'accentuer ce problème, n'a fait que mettre en lumière toutes les difficultés de ce problème. Donc qu'est-ce qu'on fait face à un problème endémique? Qu'est-ce qu'on fait face à une situation où, finalement, la mentalité aujourd'hui de l'hôpital français, c'est de le considérer, de le gérer comme une entreprise privée. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait du bénéfice, on essaye d'être à l'équilibre. Alors que pour moi, et que pour beaucoup de gens, je pense, la force du système français, c'est justement qu'on ne compte pas avec l'argent des Français et on ne compte pas avec la santé des Français. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on continue à vouloir maximiser la productivité des soignants? Est-ce qu'on continue à faire en sorte que les patients restent le moins longtemps hospitalisés parce que ça coûte extrêmement cher? Ou est-ce qu'on accepte finalement vraiment de renforcer ce plan?
D'accord.
Et juste rapidement, un autre point sur les urgences, il va falloir aussi changer de mentalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation en France où le médecin de ville est de moins en moins demandé pour les petits tracas, on va dire les petits tracas quotidiens, et on est dans une mentalité très française où pour le moindre bobo, pour le moindre mal de tête, on va aller aux urgences immédiatement. Et ça remplit les urgences pour rien, et je pense qu'il faut aussi lutter contre ça. C'est aussi une mentalité des Français.
Alors, justement, on ne va pas dévoiler encore le rapport, on ne connaît pas d'ailleurs dans son entièreté, mais enfin, on va en tirer la substantifique moelle avec Reda Emrah tout à l'heure. Illustration de ces difficultés sur le terrain, si vous le voulez bien. On retrouve Antoine Estève au centre hospitalier d'Arcachon, pas très loin de Bordeaux, enfin, voilà, qui risque d'ailleurs d'être submergé dans les prochaines semaines, parce qu'on le sait, Arcachon, c'est une destination de choix pour de nombreux touristes cet été.
Effectivement, submergé par 300 000 touristes ici dans le sud de la Gironde dès le début juillet. Ça fait beaucoup de monde et forcément ça demande une organisation différente du service des urgences. Alors ce plan flash ici, cette mission flash du gouvernement, elle est plutôt bien perçue notamment pour son aspect financier. Vous le disiez tout à l'heure, la plupart des personnels soignants qu'on a rencontrés ici ce matin avec Jérôme Brampenou nous disent oui d'accord, c'est bien de doubler nos heures supplémentaires, c'est bien d'avoir ces primes pendant tout l'été. En revanche, on aimerait bien que ça continue après. Donc le personnel soignant va forcément à la fin de l'été, demander à ce que ces primes et ces augmentations des heures supplémentaires deviennent pérennes. L'autre danger, vous le disiez, pour cet été, c'est cette vague de Covid qui commence à arriver. Alors ici, on s'est plus ou moins préparé. On a, dans le service des urgences, restaffé, mis un petit peu plus de médecins pour ce mois de juillet. Mais la grande question, c'est de savoir si cette vague Covid va avoir un impact sur les arrêts de travail. Donc demander encore plus de personnel qu'on ne peut pas trouver parce qu'il n'y en a pas assez. Et d'autre part, cette vague de Covid pourrait aussi apporter un surplus de malades, notamment dans cette population touristique l'été en Gironde. Et là, évidemment, un nouvel engorgement des urgences. Alors vous le disiez, l'une des solutions, c'est d'avoir un médecin généraliste qui vient dans les urgences pour soigner ce qu'on appelle la bobologie, les piqûres de méduses, les piqûres de vives, les petites brûlures de barbecue pour l'été. Tout ça, ça pourrait être soigné par un médecin ici généraliste qui va être mis en place à l'intérieur des urgences et éviter là encore, eh bien, d'occuper inutilement des places qui devraient être réservées à de la réanimation, du déchocage ou encore des urgences vitales.
Merci beaucoup Antoine Estève, reporter extraordinaire, accompagné de Jérôme Rampenou pour les images, choses vues, choses entendues, Caroline Pilastre. On va entrer dans la matière tout à l'heure, parce qu'il y a certains aspects sur lesquels il va falloir sérieusement se pencher. Mais ce qu'on comprend globalement, c'est qu'il va falloir plus d'argent, plus de bras, on a de cesse de le dire, et puis une simplification administrative, et peut-être une cohérence même administrative, parce que on a beaucoup glosé sur les ARS, sur la gestion de l'hôpital confiée à des personnes extérieures. Peut-être qu'il faudrait revoir ça et revenir à une espèce de co-gestion hybride avec des chefs de service qui connaissent mieux le cœur du métier. Pour vous, ça va quand même dans le bon sens de pondre des rapports comme ça quand l'heure est la plus grave ?
Pas vraiment. Vous avez fait une excellente synthèse, Nelly. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, sauf que l'expression consacrée... La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est la réalité. Et je vous rejoins totalement. Ça fait des décennies que l'hôpital est en crise. La Covid n'a rien arrangé avec la fermeture des lits, plus les 15 000 soignants qui ont été mis à l'écart parce qu'ils refusaient de se vacciner. 5 000 d'entre eux ont décidé de se reconvertir. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi on ne réintègre pas les 10 000 personnes qui manquent cruellement aussi au sein de l'hôpital public. Mardi, nous étions au Vraie Voix sur Sud Radio avec un syndicaliste de Bordeaux qui fait grève. Il expliquait qu'il va falloir prendre des vacances parce que ses collègues et lui sont en bout de course. Ils font un burn-out. Ils ont besoin aussi de déconnecter après tout ce qu'ils ont vécu comme période extrêmement compliquée depuis 2 ans. Ils ont peur de la 7e, 8e vague dont on n'arrête pas de parler ces derniers jours. Que va-t-il se passer ? Alors oui, c'est une question de bureaucratie. On sait très bien qu'il faut une simplification administrative et que c'est une horreur absolue pour la majorité d'entre eux que de remettre des rapports plutôt que de s'occuper des patients. Nous, en tant que patients lambda, quand on va aux urgences, pas pour de la bobologie, mais pour des choses plus importantes, puisqu'après tout, on n'a pas à faire des autodiagnostics, on attend d'être pris en charge rapidement. Parfois, on peut patienter 7 à 8 heures. Je ne jette pas la pierre, évidemment, sur les soignants. Ils n'ont que 2 bras et 2 jambes. Mais il y a un moment donné, moi, j'ai la sensation que sur l'ensemble du régalien, tout est en train de craquer, malheureusement. Et vous pouvez me traiter de démagogue, mais je me demande où passent nos impôts. Parce qu'on parle de ces questions régulièrement. Un jour chasse l'autre, mais on revient toujours à ces marronniers, comme on dit dans le milieu journalistique. Sauf que là, ça arrive à une situation où on ne peut plus attendre des conventions citoyennes, un Ségur de la santé, des rapports, des technos, mais on a besoin réellement de concret et de pragmatisme.
Jean-Louis Burgard, c'est vrai, on peut se demander quand même à quoi sert notre argent, quoi. C'est une vraie question qu'on se pose.
À propos de
la redistribution.
À propos de la française. Oui, enfin, on peut entreprendre un
vaste débat. Oui, mais elle ne fonctionne plus adéquatement.
Sur où vont nos impôts. Enfin, c'est une vieille question, je crois. Mais à propos de l'hôpital public, on peut tout de même aussi se rappeler que la théorie selon laquelle l'hôpital était une entreprise comme une autre, c'est-à-dire qu'il ne devait pas perdre d'argent, c'est une théorie qui est sortie sous la droite, sous Nicolas Sarkozy. Bon, et c'est une théorie qui, aujourd'hui, est refusée avec logique et avec intelligence par tout le monde. Je pense qu'on peut s'inquiéter effectivement du énième rapport. Simplement, c'est un rapport avec le petit mot « flash » derrière, qui veut dire qu'il faut agir vite, parce que tout le monde a conscience que sur l'hôpital...
C'est même pire, c'est mission flash.
Parce que là, vous avez passé un reportage sur l'endroit où je vais aller passer mes vacances, sur l'hôpital d'Arcachon, donc je suis un peu inquiet. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, d'une part, on s'est aperçu qu'il fallait réorganiser la façon dont on accepte les urgences. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire rapidement. Et c'est en train de se réorganiser. Il y a aussi la possibilité de faire appel à des médecins qui n'avaient pas l'habitude de travailler pendant l'été, pour parler de choses immédiates. Je ne vous parle pas de... Voilà. Et puis, il y a aussi, je crois, moi j'y crois, je sais, je suis un des rares à y croire, mais je pense que Mme Borne, Premier ministre aujourd'hui, a l'air plus efficace dans la réorganisation d'un certain nombre de choses que ses prédécesseurs. Oui. Voilà. Donc, je crois provisoirement en Mme Borne.
On va retrouver Mickaël Dos Santos pour le Flash Info et puis Redem Rabit qui va nous dire ce que contient cette mission Flash.
Le Covid continue en forte progression. Hier, 133 346 nouveaux cas ont été confirmés. 15 836 patients sont hospitalisés. En 24 heures, 42 décès ont été enregistrés. Le pic de cette septième vague est prévu pour la mi-juillet. Certaines chaudières sont désormais interdites à la vente. Dès aujourd'hui, hormis quelques dérogations, tout équipement neuf fonctionnant au fioul ou au charbon sera exclu du marché. Les appareils déjà installés pourront, eux, continuer d'être utilisés en entretenu et réparé. Et puis l'épouse d'un chasseur mise en examen 27 ans après le meurtre de son mari. L'homme avait été retrouvé décapité dans l'Allier. La femme de 56 ans ne reconnaît pas les faits malgré des indices graves et concordants. Une dispute à cause d'un sèche-cheveux avait notamment éclaté le soir même. Les investigations se poursuivent.
Merci beaucoup, Mickaël. Soyons pratico-pratiques. Il y a bien des choses concrètes, évidemment, qui ont été pondues dans ce rapport. Et Reda Emrabit, vous l'avez épluché pour nous. Vous en avez retenu quelques idées fortes que vous allez nous détailler, j'imagine.
Effectivement, c'est un document de 60 pages qui a été remis à Elisabeth Borne. On va retenir trois idées fortes. L'objectif, c'est de faciliter la gestion durant cette période estivale à haut risque. Le premier point, la mission flash, recommande de réguler les admissions aux urgences, c'est-à-dire limiter l'accès aux urgences pour les seules urgences vitales, notamment la nuit, et ainsi inciter la population à beaucoup plus appeler le SAMU le 15 avant de se déplacer aux urgences. Il faudrait organiser une grande campagne de communication dans ce domaine. Deuxième point, c'est l'augmentation évidemment de la rémunération des médecins, notamment les médecins libéraux qui travaillent la nuit et pendant les ponts, avec une augmentation de 100 euros brut par heure défiscalisée. On le sait, l'augmentation des salaires, c'est une revendication majoritaire, prioritaire dans le personnel hospitalier, d'autant plus qu'elle a été accentuée par la crise du Covid-19. Troisième point, il est plutôt original pour faire face notamment à la pénurie des effectifs cet été, c'est faire appel aux soignants retraités volontaires afin qu'ils puissent reprendre une activité. Ceux-ci bénéficieront d'un cumul entre leur pension de retraite et leur salaire en tant que praticien. C'est afin de les inciter à être présents cet été. Voilà, on parle d'une mission flash sur un moment donné, un temps donné, à savoir la période estivale. Reste à savoir ce que va faire le gouvernement. D'abord à court terme avec cette mission flash et puis à plus long terme avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Merci beaucoup, Reda, de nous avoir épluché tout ça. On sait que c'est dense hein, comme document à parcourir, donc c'est pas toujours facile d'en faire une synthèse efficace. Alors évidemment, on le rappelle, Sébastien Ligné, il s'agit pas d'un plan quinquennal, il s'agit d'une mission d'urgence. Néanmoins, est-ce que ça vous paraît à la hauteur je vous ai vu réagir quand il était question de faire appel aux aides-soignants et aux retraités notamment.
Oui, non, mais parce que on est face à des, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un problème systémique, et face à un problème systémique, on apporte des solutions d'express, d'urgence. C'est de la bidouille, quoi. C'est, on met de la petite rustine là où on peut parce que l'eau est en train de submerger le bateau. Mais si vous voulez, des soignants retraités qu'on rappelle, mais ça, c'est une solution qu'on utilise en temps de guerre.
Mais pas les retraités, c'est ça ?
Non, mais moi, non, excusez-moi, bah justement, c'est parce que
je disais que c'est pas assez ambitieux.
Un aide-soignant qui est retraité, il a le droit de bénéficier de sa retraite. Et on ne devrait pas l'appeler sous prétexte que le problème est systémique et dire, bon, bah finalement, c'est aux retraités de venir. Excusez-moi de trouver ça choquant.
D'accord,
de rappeler
donc la vraie question, c'est le recrutement,
déjà,
en fait.
Le recrutement, encore une fois, c'est vrai, les soignants non vaccinés qui ont été écartés. Évidemment que ça reste une minorité sur tout l'ensemble des aides-soignants français, mais c'est aussi un problème, et c'est aussi une image symbolique qui est envoyée. Quelle est l'image qu'on renvoie aux aides-soignants quand on leur dit que finalement leurs collègues non vaccinés, ils sont écartés, quand on sait qu'il y a aujourd'hui des entreprises françaises où on accepte les salariés qui ont le Covid mais qui sont vaccinés. Donc aujourd'hui en France, quelqu'un qui a le Covid mais qui est vacciné peut venir travailler, mais quelqu'un qui n'a pas le Covid et qui est non vacciné doit rester à l'écart. Est-ce que c'est normal ? Quelle est l'image qui est renvoyée ?
Allez, Jean-Louis Burga veut vous répondre sur ce que vous avez dit.
Il y a une vaste réflexion à avoir aujourd'hui sur le fonctionnement de l'hôpital public. À quoi sert l'hôpital public ? Je suis désolé de citer ma jeunesse, mais autrefois, on allait à l'hôpital quand on avait quelque chose de grave. Aujourd'hui, ça n'est plus dans notre civilisation. Aujourd'hui, dès qu'un gosse lève le doigt, on l'emmène aux urgences, on l'emmène à l'hôpital.
D'accord. Là, il y a une vraie réflexion à avoir. Avec la médecine
en ville. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème aussi qui, ça me gêne pas de montrer du doigt les médecins généralistes qui ont fait évoluer leur travail et leur profession d'une façon qui n'a pas toujours servi l'intérêt général. Les médecins généralistes aujourd'hui sont dans une situation un peu plus confortable que ce que je connaissais il y a une cinquantaine d'années, quand la première porte à laquelle on allait frapper quand il y avait un
quand
problème,
on était petit, on c'était le médecin généraliste. Quand on était petits, on a toujours un médecin qui venait à la maison, bien sûr, c'est venu à la maison pour nous soigner.
Donc, les nouveaux médecins n'acceptent plus les nouveaux patients, donc il y a des patients qui n'ont plus de médecin.
La réflexion, reconnaissez la réflexion,
alors, eux vous diront,
la réflexion elle est globale tout de même.
D'accord, eux vous diront, il faudrait peut-être valoriser nos salaires, les médecins libéraux, demande donc à hauteur de 100 euros brut de l'heure défiscalisée qu'on fournisse des efforts budgétaires, la consultation avec une majoration de 15 euros par acte demandée par le SAMU là pour le coup, et puis la revalorisation du travail de nuit, là c'est pour le personnel hospitalier, mais il y a aussi tout ça, enfin je veux dire, faire fonctionner un édifice aussi complexe que l'hôpital, c'est aussi le rendre incitatif pour ceux qui officient sur place. Parce que sinon, enfin, c'est un métier comme un autre. Ça ne suscitera plus de vocation. Il y en a déjà plus beaucoup. Mais...
Exactement. Et là où je suis un peu en désaccord avec vous, messieurs, alors déjà, évidemment, les 10 000 soignants ne pourront pas répondre à cette crise. Mais ça sera quand même des personnes supplémentaires qui viendront au service de la patientèle. Parce qu'on sait que ça prend énormément de temps de former des aides-soignants et des soignants tout court, pardon. Et vous savez, monsieur... Tout le monde ne se rend pas aux urgences uniquement pour de la bobologie. Moi, je veux bien qu'on caricature, mais on n'est pas non plus médecin.
Mais reconnaissez que ça a évolué. Ça, on va aux urgences pour des raisons...
Ça arrive, évidemment, mais je ne veux pas faire de généralité. Parce qu'on peut très bien avoir une migraine, et en fin de compte, à l'arrivée, c'est un AVC. Donc si on n'est pas pris en charge, on peut très bien mourir. Donc il y a un moment donné, il faut faire la part des choses aussi. Malheureusement... C'est une question de budget, c'est une question de simplification administrative, on le dit depuis des années, mais est-ce que justement, avec cette nouvelle mesure, on va avancer réellement? Surtout si on se retrouve dans une configuration comme lors des différents confinements et déconfinements. Parce que si l'hôpital public est pris d'assaut là, à la fin de l'été, que va-t-il se passer? C'est la question que je me pose, vraiment. Alors, je suis comme vous, une citoyenne, potentiellement. Non, mais espérons, ouais. Mais si on est malade, on ne pourra pas se faire soigner. Vous allez à l'Arcachon, ils galèrent déjà au niveau du CHU de Bordeaux. Donc, s'ils ne vous reçoivent pas... parce qu'on va appeler les choses crûment, ils sont obligés de faire des triages actuellement en fonction de l'état.
Alors, il y a une régulation à l'accès aux urgences qui est préconisée dans ce rapport. Non, mais ça veut dire... Oui, mais ça existe déjà.
Oui,
ça existe déjà, mais visiblement, ce n'est pas efficace.
C'est une des pistes, tout de même, qui est suivie et qui commence tout doucement à porter les fruits. C'est-à-dire qu'on a, d'une part, la possibilité de mettre dans la tête des éventuels patients que leur maladie ou leur bobo peut être traité différemment qu'en fonçant dans un service d'urgence. Et ensuite, il y a un système très technique qui fait qu'on vous ausculte, on peut vous ausculter par téléphone avant que vous alliez aux urgences.
Alors, donc, petite question.
C'est une piste à suivre.
Je crois que dans ce rapport, il y a aussi l'aspect campagne de prévention qui est mis en avant. Mais ça aussi, enfin, je veux dire, ça paraît dérisoire, mais si vous dites, si vous martelez dans l'esprit des gens que les urgences, c'est pas une fatalité, que c'est pas une fin en soi, et qu'il y a d'autres solutions annexes, ça peut aussi faire son bonhomme de chemin, au bout d'un moment, dans l'esprit des uns et des autres.
Que les médecins,
non, mais il faut qu'on comprenne, nous aussi, en tant que citoyens, qu'il faut arrêter d'aller vers la facilité à chaque fois.
Il y a deux choses. Il faut déjà pas oublier que, en dehors des villes, vous avez plusieurs zones en France qu'on appelle des déserts médicaux, où il n'y a plus de médecins, qu'on pourrait dire des médecins de famille ou des médecins libéraux. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça? Parce qu'il y a aussi des régions en France où on va aux urgences parfois pour un bobo, mais parce qu'il n'y a aucune autre solution.
Mais là, ça, la mission flash, elle ne va pas le régler demain.
Non, mais je suis d'accord. Mais moi, pour vous dire que la mission flash est une escroquerie, je suis le premier à vous le dire, et qu'elle ne résoudra rien, on est tous d'accord. Et puis aussi, encore une fois, pour les médecins de ville et des grandes villes, même à Paris, pourquoi aujourd'hui les médecins libéraux n'acceptent plus de nouveaux patients? Vous avez aussi des gens, quand ils déménagent, quand ils arrivent, quand ils changent de médecin de famille parce que les médecins partent à la retraite, ils n'acceptent plus les nouveaux patients. Donc vous avez aussi, évidemment, un problème de mentalité à régler, mais vous avez aussi des patients qui vont aux urgences parce qu'ils n'ont pas le choix, pour rien, mais parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Et alors, quant à la téléconsultation, alors excusez-moi, mais alors la téléconsultation, je n'y crois, mais alors absolument
c'est
pas, mais une seule seconde.
Vous n'y avez jamais eu recours?
Non, mais
ça ne marche pas pour vous?
Attendez,
ça peut pour certains...
Alors moi, personnellement, si je me sens vraiment pas bien, je ne suis pas sûr que quelqu'un qui m'ausculte, parce que ausculter, je suis peut-être vieux jeu, mais pour moi, ausculter, il faut toucher les gens. Donc, ausculter par téléphone ou par visioconférence sur Skype, moi, je ne serais pas rassuré après une visioconsultation, surtout si je ne me sens vraiment pas bien. Je ne suis pas sûr que ça incite des gens à rester chez eux après une visioconférence.
Mais vous parliez de la désertification, qui est une réalité, malheureusement. On en revient à la vocation, au manque d'attractivité salariale de la part des jeunes médecins qui, beaucoup, ont envie d'aller au soleil. On ne peut pas leur reprocher, mais c'est la vérité par rapport à nos gros centres-villes. Moi, je vous donne un exemple. J'habite dans les Hauts-de-Seine. On sait très bien qu'il y a une désertification à la Seine-Saint-Denis, et aussi dans les Hauts-de-Seine. Donc on n'est pas en train de parler de la campagne. Ah bah, les Hauts-de-Seine, c'est le plus grand département d'Île-de-France. On a du mal à trouver un généraliste. Mon généraliste, que j'appréciais beaucoup, vient de partir aujourd'hui à la retraite. Eh bien, il m'a donné une liste de confrères, mais je ne suis pas sûre de pouvoir trouver une place rapidement, parce que, évidemment, ces médecins ont également leur patientèle. Et on en revient au quota, ce qui est une réalité. Donc on a l'impression que c'est régulièrement le serpent qui se mord la queue. Oui. Très bien, il y a les urgences où il ne faut pas aller pour la bobologie, on est tous d'accord. Mais il y a un moment donné, quand on n'arrive pas à trouver un médecin, même dans les grandes villes, que fait-on ? Moi, je ne suis pas médecin. Si j'ai un problème de santé et que ça s'aggrave, eh bien forcément, moi, j'ai envie d'aller là où on va aller me soigner. Et si c'est les urgences, ça sera les urgences.
Je vais juste finir sur cette obligation de garde individuelle pour les médecins de ville. Vous savez, elle avait été... évoquée. Visiblement, elle n'a pas été retenue par le rapport en question. On sait que les intéressés y étaient farouchement opposés. Mais enfin, bon, voilà, il faudra peut-être s'interroger sur la nécessité de faire des gardes individuelles, y compris de nuit, pour certains médecins, sur une base de ce qu'on appelle l'astreinte dans tous ces métiers d'urgence. Voilà. En tout cas, ça ne figure pas dans le rapport. On verra ce qu'il en sort réellement de cette mission flash. On va marquer une courte pause et on reviendra pour faire le bilan de la semaine. Mon Dieu, ça a été houleux à l'Assemblée nationale. Et cette commission des finances, un suspense insoutenable qui a abouti à l'élection d'Éric Coquerel, c'est encore commenté aujourd'hui. On écoutera d'ailleurs Jordan Bardella qui règle un petit peu ses comptes avec la partie adverse. C'était sur notre antenne ce matin, tout à l'heure. Entamons ensemble, si vous le voulez bien, cette toute dernière partie de Midi News avec le flash info de Mickaël Dos Santos. Rebonjour Mickaël.
Rebonjour Nelly. Rencontre entre Emmanuel Macron et Anthony Albanese, le président français et le premier ministre australien, échange en ce moment même à Paris au palais de l'Élysée. En automne dernier, l'annulation d'un contrat d'achat de 12 sous-marins évalué à 56 milliards d'euros avait dégradé la relation entre les deux pays. Record négatif pour l'inflation au sein de la zone euro. Ce vendredi, Eurostat a annoncé une hausse de 8,1% par rapport à juin dernier, une valeur jamais atteinte depuis 1997. La guerre en Ukraine a provoqué une flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation. La France est moins impactée que ses voisins européens. Un moment historique. Ce matin, à Kiev, le drapeau de l'Union européenne a été déployé au Parlement ukrainien. Une initiative applaudie par l'ensemble de l'hémicycle. Le 23 juin dernier, les dirigeants des 27 pays membres ont accordé au pays le statut de candidat à l'Union européenne.
Merci beaucoup, cher Mickaël. Après l'hôpital, on passe aux finances. On est toujours en compagnie de Caroline Pilastre, de Sud Radio, Sébastien Ligné, Valeurs Actuelles et Jean-Louis Burga, qui travaille pour lui-même, hein, journaliste. Vous vous représentez vous-même.
Je regarde les dernières infos et comme ça, je puis vous informer en direct.
Vous n'avez pas besoin d'être pour un média, vous êtes bien informé tout seul. Vous avez été à la tête, blague à part, de Canal+, hein, ancien directeur de la rédaction de Canal. Absolument. J'aimerais qu'on parle donc de l'arrivée d'Éric Coquerel à la tête de la commission des finances à l'Assemblée, encore largement commenté. Je vous rappelle qu'il s'est imposé au troisième tour, avec 21 voix contre 11 pour le candidat que présentait le Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy, 9 voix pour la LR Véronique Louwagie, alors que les députés de la majorité se sont abstenus. Jean-Philippe Tanguy a dénoncé ce qu'il appelle la piraterie de la NUP et une présidence illégitime de la part de LFI. Et puis Jordan Bardella était notre invité ce matin. Et lui, alors, il a carrément pointé ce qu'il appelle la déchéance des Républicains. Écoutez.
Le premier groupe d'opposition, c'est le Rassemblement national. Et par une des magouilles entre les Républicains et la France insoumise, on a vu se dégager un axe LR Coquerel. Donc ça va plaire à beaucoup d'électeurs de droite d'apprendre qu'on remet, avec le soutien des Républicains, la présidence de la Commission des finances à un révolutionnaire de la LCR, c'est-à-dire au pire de l'extrême gauche, M. Coquerel, qui est l'aile gauche de la France insoumise, donc l'extrême gauche de l'extrême gauche, qui est un militant anti-flic, un communautariste, et quelqu'un qui défend des idées qui sont, je crois, dangereuses pour la démocratie.
Alors, on va y revenir, parce qu'il est revenu dans le détail sur l'islamo-gauchisme dont il accuse Éric Coquerel. Il l'accuse d'être à la manœuvre de cette idéologie naissante. Le Front républicain n'a pas disparu, disaient hier les sympathisants NUP, à propos de ce choix. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
C'est pas complètement faux. Il y a déjà une hypocrisie de la part de cette NUPES qui est quand même une escroquerie absolument extraordinaire. On sait très bien qu'elle va se déchirer à la première tension, au premier dossier un peu chaud sur les retraites, sur le nucléaire, etc. Donc on sait que c'est une alliance de pacotille. Mais on voit qu'ils sont capables de se considérer comme la première force d'opposition de l'Assemblée quand il faut récupérer la commission des finances. Ils sont aussi capables de se considérer comme quatre groupes indépendants quand il faut aller récupérer des subventions publiques, quand il faut aller récupérer certains sièges, etc. Donc c'est une alliance à la carte. Surtout quand, et donc c'est d'autant plus une escroquerie quand on voit le profil d'Éric Coquerel, dont on pourrait parler pendant des heures. Moi je pense aux LR, évidemment, aux électeurs LR, mais je pense aussi aux électeurs socialistes et aux députés socialistes, ceux qui sont, on va dire, les socialistes à l'ancienne, qui ne sont pas forcément ravis de faire partie de cette NUPES et ne sont pas forcément ravis de s'être rangés derrière Jean-Luc Mélenchon. Comment ils réagissent quand ils voient arriver Éric Coquerel, LCR, qui a milité pour le CCIF, enfin qui a marché avec le CCIF, etc. Comment on réagit face à ça?
Ils
ne
sont pas tout seuls, il y a un certain nombre de dissidents dans les rangs socialistes, vous le savez.
Mais voilà la question qui se pose. Maintenant, sur le front républicain, les Républicains, il y a eu une idée qui a été proposée, parce que ça a été digne d'un épisode de House of Cards, cette élection de la Commission des Finances. À un moment donné, il a été évoqué l'hypothèse d'une présidence tournante entre les Républicains et le Rassemblement National, c'est-à-dire que tous les ans, on pourrait changer, un jour ce serait le LR, un jour ce serait le RN, pour empêcher justement d'avoir Éric Coquerel le président de la Commission des Finances, probablement pendant tout le quinquennat. Et ça a été refusé. Pourquoi ? Est-ce que, comme certains l'avancent, les candidats, même on aurait pu désigner un candidat indépendant, un des trois candidats indépendants qui se présentaient, dont M. de Courson, un centriste, on aurait pu décider d'élire un indépendantiste pour lequel et le RN et le LR auraient voté.
Ça aurait été la solution.
La solution, on va dire, mixte. Ouais, ouais. Et il se murmure que ce monsieur de Courson ou qu'un autre aurait finalement refusé d'être élu avec cette étiquette sous prétexte qu'il ne voulait pas être élu avec les voix du Rassemblement National. Donc évidemment, le Front Républicain marche encore.
Le même Charles de Courson qui a tenu des propos dans le passé assez forts sur par exemple la loi anti-casseurs qu'il avait assimilé au régime de Vichy et qui dit voilà. Tout le mal qu'il pense régulièrement du Rassemblement National. J'aimerais qu'on revienne dans le détail à ce que disait ou ce qu'abordait à demi-mot déjà Jordan Bardella dans l'intervention précédente à propos d'Éric Coquerel et son islamo-gauchisme supposé, donc la portée symbolique de ce choix, à son sens. Écoutez.
Elle est un militant qui marchait en novembre 2019 et qui a d'ailleurs poussé toute la France insoumise. C'est lui qui a impulsé ce mouvement islamo-gauchiste à la France insoumise à aller marcher à côté du CCIF dans cette marche de la honte qui s'est tenue en novembre 2019. Et c'est quelqu'un d'ailleurs dont l'assistante parlementaire a tweeté il y a quelques mois, ça avait fait polémique, expliquait que la France était un pays de fascistes et elle disait que les Français aillent niquer leur mère, je cite. Donc l'idéologie de la France insoumise est une idéologie dangereuse. Je crois qu'ils veulent faire de l'Assemblée nationale une ZAD. Et on le voit d'ailleurs avec le comportement qu'ils ont.
Les institutions sont mises à mal par ce choix aujourd'hui, Jean-Louis Burga.
Alors,
est-ce qu'on foule au pied notre démocratie ?
Je vais vous dire, soit pas pris sur un contresens. Je vous donne les deux lignes que j'avais notées sur le portrait d'Éric Coquerel hier. J'avais noté ancien anarchiste repenti, anticapitaliste, trotskiste provocateur, européen peu convaincu, théorie économique mondialiste, etc. etc.
Qui écrit ça ?
C'est un portrait que j'avais noté à partir de d'informations. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas un coquereliste farouche.
Oui, bon. Ça, j'imagine.
Simplement, moi, je suis très heureux des résultats de ces élections législatives. J'ai vu arriver au Parlement...
C'est cela, j'en parle pas de la... Là, vous vous extrayez de la commission des finances.
Non. J'ai vu arriver au Parlement...
Des élections, d'accord, du Parlement.
J'ai vu arriver au Parlement tous les acteurs d'un débat qui avait lieu jusqu'à présent dans la rue. Je suis très heureux qu'au Parlement, aujourd'hui, il y ait le Rassemblement national, il y ait la France insoumise, il y ait on trouve effectivement toutes les voix qui n'avait pas pu s'exprimer jusqu'à présent d'une façon officielle. À la tête de la France insoumise, enfin, dans les têtes de la France, il y a Monsieur Coquerel. Bon, Monsieur Coquerel, effectivement, il a pris la tête de la Commission des Finances parce que c'est comme ça se passe comme ça depuis Nicolas Sarkozy.
Ce n'est pas vrai.
Ça se passe comme ça. On aurait pu éventuellement l'empêcher de le faire, mais c'est une tradition depuis.
Alors, il va vous répondre parce qu'effectivement, il y a tout le débat autour de groupe versus coalition.
J'attends
Qu'est-ce qu'une coalition? Il va falloir qu'on s'entende là-dessus.
J'attends
en fait.
Que M. Coquerel parle.
D'accord, merci.
Et je ne fais pas de procès.
Il veut vous répondre.
C'est très simple. Pour venir sur cette loi, donc faites cette loi informelle, on va dire.
Non, c'est un usage. On appelle ça un usage.
C'est qu'en gros, la présidence de la commission des finances, qui est, je crois qu'il y a 8 commissions permanentes, c'est on va dire la commission la plus importante et la plus prestigieuse, elle revient de facto au premier groupe d'opposition de l'Assemblée nationale. La NUPES, c'est dans les textes de la NUPES n'est pas un groupe unique d'opposition. C'est une coalition qui a été faite pour les élections, derrière un programme sur lequel ils sont mis d'accord. Mais une fois à l'Assemblée, il a toujours été clair, et M. Roussel des communistes l'a une nouvelle fois affirmé, les socialistes l'ont affirmé, chaque groupe est indépendant. Et d'ailleurs, à l'Assemblée, chaque groupe est indépendant. Donc, la France Insoumise est un groupe à part entière, mais la France Insoumise a moins de députés que le Rassemblement National.
Bon, on a balayé les usages, mais on n'a pas enfreint la loi non plus.
Non, mais évidemment.
Mais non, c'est ça en fait. Il a été élu démocratiquement, quoi qu'on en pense.
Bien sûr.
Monsieur Coquerel est de sensibilité d'extrême gauche. Nous le savons tous. Maintenant, raison gardée. Il n'est pas ministre de l'économie. Ça n'est pas ma sensibilité. Là où moi, j'ai du mal, c'est avec les LR qui, pour le coup, et ma sensibilité. Ils ne sont pas capables de se mettre d'accord parce qu'ils ont beaucoup de mal à s'allier avec le RN, alors qu'ils ne viennent pas râler maintenant. Parce que s'ils s'étaient alliés au RN, ils auraient pu faire plus et... Dans ces cas-là, M. Coquerel ne serait pas arrivé à ce poste. Alors, il y a un moment donné, moi, je veux bien qu'on n'arrête pas de pousser des cris d'orfraie, mais il faut être aussi réaliste. Coquerel a fait 21, les LR ont fait 11 et le RN a fait 9.
Mais beaucoup disent, de toute façon, le compte n'y était pas. RN n'aurait pas pu être élu.
Il aurait fallu que des 3 indépendants votent pour le RN.
Parce qu'il y avait, ça faisait 20 au final. Ouais. Quand on,
il aurait fallu qu'au moins un des indépendants, dont M. de Courson, vote pour
le RN. Je suis beaucoup plus d'accord avec cette analyse. Beaucoup plus d'accord. Je pense que le vrai regret ou la vraie erreur à souligner, c'est que le LR ne sent pas le sens de l'histoire, si je peux dire aujourd'hui. L'histoire aujourd'hui marche tout doucement, on s'est aperçu avec ces élections, vers la droite. Le Rassemblement national est au Parlement. Le Rassemblement national a une voix qui a porté. Il y a eu aussi un monsieur qui s'appelait Éric Zemmour qui a eu une voix qui a porté. Même s'il n'est pas député, je sais pas. Et il y a des idées qui aujourd'hui doivent être transmises d'une façon ou d'une autre. Donc effectivement, M. Coquerel a le droit.
Oui, mais à la NUP, on vous dira not in my name. C'est-à-dire qu'on voudra toujours vilipender et diaboliser les idées RN dans les travées de l'hémicycle.
Oui, enfin, les LR auraient dû comprendre ce que vous venez de dire, qu'effectivement, leur électorat et leurs idées n'étaient pas...
Il y a un manque de cohérence de la part de LR.
Évidemment, et on sait très bien que la troisième voie qu'a tenté d'instaurer LR, c'est-à-dire non-macroniste et non-lepéniste, à un moment donné, c'est sans fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, LR n'est la troisième force d'opposition de l'Assemblée nationale. Elle a perdu de son pouvoir. Elle a perdu de son pouvoir médiatique aussi. Donc évidemment qu'elle va devoir faire un choix. C'est-à-dire que vous avez une partie, en plus des Républicains, Emmanuel Macron le sait très bien, qui de toute manière votera une partie ou s'abstiendra sur la plupart des mesures présentées par la majorité. Vous avez, on pourra peut-être parler du remaniement, mais vous avez aussi peut-être des prises de guerre LR qui vont rejoindre. Donc aujourd'hui, vous avez un groupe où sur les combien ils sont 60, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, approximativement.
62, je crois.
62, sur les 62, vous en avez, je pense, une dizaine sur lesquelles Emmanuel Macron sait qu'il peut compter sur certaines lois. Vous avez de l'autre extrémité une partie aussi, notamment je pense à ceux qui ont été élus en Auvergne-Rhône-Alpes derrière Laurent Wauquiez, qui eux ne veulent pas s'allier au macronisme, absolument pas, et qui pour le coup pourraient, sur des textes de circonstances, s'allier avec Marine Le Pen. Donc ils sont dans une impasse. Et sur la commission des finances, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous comparez les deux profils, parce qu'on parle du profil d'Éric Coquerel, qui a été maintes fois dessiné. Mais si vous prenez le profil de Jean-Philippe Tanguy, qui est donc le candidat du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, c'est pas un fils de néo-nazi, un extrémiste de droite. C'est quelqu'un qui vient de Nicolas Dupont-Aignan et de Debout la France, qui a été souverainiste gaulliste pendant des années, qui a rejoint Marine Le Pen assez tardivement, qui est quand même un profil qui a fait l'ENA. Enfin voilà, je veux dire, c'est quelqu'un qui a un profil,
un candidat,
c'est quelqu'un
sûr.
qui est considéré, qui a été le directeur adjoint de la campagne de Marine Le Pen, qui a fait beaucoup.
On n'a pas considéré
exactement,
que c'était le candidat
idéal. Qui a fait beaucoup
idéal.
Pour la normalisation de Marine Le Pen, qui a fait beaucoup pour tout ça, pour qu'elle soit plus forte sur les dossiers, etc. C'était pas un incompétent, c'était pas quelqu'un d'extrême droite.
À un moment donné, il faut que les LR arrivent à trancher, parce que sinon ils vont disparaître, clairement.
Ça oui, c'est ce que je disais à propos de leur cohérence et de leur choix à assumer. J'aimerais juste un mot. On l'a beaucoup dit d'Éric Coquerel, qui pourrait tenter d'outrepasser ses fonctions et de profiter de ce droit de regard de premier plan pour régler quelques comptes politiques, pour mettre son nez un peu dans les affaires fiscales des uns et des autres. lui répond non mais c'est du fake news total. Il faut lui faire confiance aujourd'hui ?
J'en sais rien. À l'avenir de
non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un risque ?
Bien sûr qu'il y a un risque qu'il le fasse. Et après tout, s'il y a des paradis fiscaux, ça sera son rôle aussi d'éclaircir ces points. Mais évidemment qu'il fait peur au grand patron. J'entendais sur l'antenne tout à l'heure Sophie de Menton, qui justement était en train...
Entrepreneuse, oui.
Entrepreneuse, et qui était en train d'expliquer qu'elle avait... un peu d'angoisse, entre guillemets, qu'elle craignait justement pour la suite avec l'arrivée de M. Coquerel à ce poste. On verra bien. Mais bon, écoutez, il a été élu, quoi qu'on en dise. Donc, à un moment donné, on ne peut pas s'indigner à géométrie variable. Voilà, moi, je suis très honnête intellectuellement.
Ouais. Il peut devenir quand même le bras armé d'une forme de, comment dire, de règlement de compte
à justicier à gauche.
Je crois qu'il ne faut pas
trop s'avancer là-dessus.
Il
ne
faut pas essayer
Le vrai pouvoir, le rapporteur.
Le pouvoir est c'est pas un pouvoir de création de loi, c'est pas un pouvoir de décision, c'est un pouvoir de contrôle essentiellement.
C'est un garde-fou. Donc,
c'est un garde-fou, c'est un pouvoir de contrôle. Et je répète que si l'extrême-gauche est entrée à l'Assemblée nationale, ça ne me gêne pas d'entendre la voix de l'extrême-gauche à l'Assemblée nationale.
Et puis il n'est pas ministre de l'économie.
On verra à l'usage alors, Sébastien Lillier. Vous leur donnez le bénéfice du doute ou pas du tout?
J'ai du mal à y croire, mais pourquoi pas? Peut-être qu'il va se révéler non-partisan, comme cette fonction normalement le réclame, et qu'il va être capable d'ouverture,
c'est
etc.
Dit, en tout cas,
j'ai du mal à y croire. Mais après, c'est vrai qu'il faut aussi rappeler qu'à la Commission des finances, vous avez aussi le rapporteur général de la Commission des finances qui, lui, est forcément appartient à la majorité, enfin majorité relative, donc il n'est pas non plus sans contrôle.
Je veux dire, c'est pas
le comité du salut public qui décide de tout et qui va pouvoir ouvrir le secret fiscal sur absolument toutes les entreprises. C'est un peu plus compliqué que ça.
Et vous comprenez, Coquerel a été chef d'entreprise.
Bien sûr, mais vous comprenez que c'est surtout symbolique. C'est quelle est l'image renvoyée par cette assemblée, par cette législature quand vous avez.
Non, mais ce que ça montre surtout, c'est que ça permet aux uns et aux autres de se compter. Pour l'instant, c'est pas encore très clair les jeux d'alliance et d'affinité.
Celui qui a réussi son coup, c'est quand même Monsieur Mélenchon. Avec l'union de cette NUPES. Hein.
Mais parce qu'il l'a mise un petit peu à sa sauce et il s'accommode effectivement de cette création. Dans un instant, on reparlera du discours de politique générale prononcé par Elisabeth Borne la semaine prochaine. Ce sera le 6 juillet très précisément. On parlera aussi de la présidence Macron qui prend fin à l'Union européenne. Mais ce sera juste après le flash de Mickaël Dos Santos. Rebonjour.
C'est l'une des nouveautés de ce 1er juillet. Les nouvelles voitures seront obligatoirement équipées de boîtes noires. Cela vise à enregistrer des données comme la vitesse, le port de la ceinture ou encore la force de collision avant et après un accident. Des mesures très utiles lors des enquêtes. Le changement de nom de famille facilité à partir d'aujourd'hui. Tout majeur peut désormais demander une fois dans sa vie à prendre ou à ajouter le nom de son autre parent. La démarche s'effectue en mairie et sans justification. Avant, il fallait motiver ce choix, entre autres un patronyme à consonance péjorative ou encore des parents violents. Et puis l'Ukraine exporte son électricité vers l'Union européenne via la Roumanie. Une annonce faite ce jeudi par le président du pays, Volodymyr Zelensky. Une source supplémentaire d'électricité pour l'Union européenne et des revenus indispensables à l'Ukraine, a tweeté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le rapprochement entre l'Ukraine et les 27 pays membres se poursuit.
Merci beaucoup. Le changement de nom, ça nous a beaucoup fait réagir. Malheureusement, ce n'est pas au programme. On en parlera une autre fois.
C'est
on verra ce que ça donne. Mais on risque d'avoir des surprises là aussi avec quelques extravagances.
Sur autre chose, vous avez vu qu'on...
Mais on va finir avec ça, si vous le voulez bien.
On va mettre des boîtes noires dans les voitures, mais on laisse circuler les bombes roulantes
sur les trottinettes. Ah bah oui, on pourrait y revenir. Ça vous inspire les trottinettes? Vous étiez frustrés de ne pas en parler tout à l'heure. La trottinette, alors on va finir avec ça, ce sera plus sympa, un tour de table. La trottinette, vous l'interdisez tout bonnement, parce qu'il nous disait c'est scandaleux et c'est rétrograde, Jean-Louis Burga.
Mais moi, je vais vous dire, je l'interdis de fait en tant que malvoyante. Je me suis fait renverser plusieurs fois. J'en ai écrit un article dans un magazine de référence et j'en ai fait une chronique sur Sud Radio. Parce qu'on ne pense pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées, aux personnes comme moi, malvoyantes ou aveugles, qui prennent des risques dès qu'elles sortent de chez elles, en dehors du quidam. C'est un scandale. C'est-à-dire que quand vous faites une réflexion à une personne sur une trottinette, elle vous incendie littéralement. Vous n'avez pas de dialogue, en fait, avec ces personnes. Elles ont toujours raison. Un un peu comme les cyclistes, en fait. Ils se croient tout permis. C'est la balade à ciel ouvert. Non, ça s'appelle de l'éducation du savoir-vivre. C'est ça, le vivre ensemble, tout simplement.
Donc, ça moi, s'appelle ça la, c'est la tyrannie du nouveau de roue.
Je m'en foutisme et de
c'est
l'égoïsme.
C'est la civilisation de la non... Il n'y a pas de loi pour les trottinettes. Il n'y a pas de loi.
Il faudrait une plaque, avait, en fait, pour légiférer
les,
réellement.
Les vélos,
ça, déjà,
les
ça leur éviterait de passer au feu rouge.
Les vélos, bientôt, comme aux Pays-Bas, vont avoir des plaques. Mais les trottinettes, c'est la loi du plus fort. C'est tout.
C'est... Sébastien Ligné, bon, c'est plus sympa de parler des trottinettes que,
ah ben,
que de la présidence à l'UE, non ? Allez, on finit là-dessus. Alors, non,
mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez rouler, je ne sais plus ce qu'est la limite, mais ça doit être 20 km/h, 15 ou 20 km/h.
Le problème, c'est qu'ils sont débridés,
en plus,
ces
gens maintenant. Voilà. Alors, à partir du moment où on peut rouler à 20 km/h et qu'on est sur la voie publique, j'estime que vous devez être considéré comme un chauffeur à part entière, en tout cas que vous devez passer le permis, que vous devez avoir au minimum le code, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez des gens qui montent parfois à deux sur ces trottinettes, à 20 km/h, qui n'ont pas le code, qui ne connaissent pas le, qui ne cassent pas le code, qui ne savent pas si on peut passer, si on ne peut pas passer, les interdictions, les priorités, tout ça. Ça provoque des accidents. Pour moi, ça paraît logique. Et quant aux trottinettes qu'on pourrait faire, la tyrannie des deux roues, en incluant.
J'appelais ça le diktat tout à l'heure.
En incluant les vélos. Ouais, le problème, c'est que si on prend une ville comme Paris, ce diktat est particulièrement appliqué, c'est-à-dire que vous comprenez bien que c'est parce que aussi il y a eu des consignes et que on a tout fait pour faire en sorte que ces usagers soient considérés comme les rois, c'est-à-dire que ils doivent être comme les bons clients parce qu'ils ne polluent pas, alors que les chauffeurs sont des immenses rétrocrates qui eux polluent et qui sont en train de tuer la planète. Ils sont donc propres, ils permettent de faire moins de bruit, ils permettraient de mieux d'avoir une circulation plus belle et plus homogène.
Ouais,
donc,
ouais.
On en a fait les rois. C'est Vélib et c'est ça. Donc évidemment.
On parlait de patronyme tout à l'heure. Il y en a un qui est pas encore apparu dans cette conversation. Hidalgo. Je m'en étonne. Ah merci, ça, merci de le rappeler.
Je lisais dans mes pensées en fait, Nelly. C'est exactement.
Non, je vais juste vous
me lancer. Hein. C'est très facile de toute manière concernant Anne Hidalgo.
La faute à Anne Hidalgo.
Alors à proprement parler, non. Mais son laxisme, son idéologie, son dogmatisme sur la question, comme pour beaucoup de cyclistes qui ne respectent pas évidemment la sécurité et le code de la route, oui, bien évidemment que je pense qu'elle ferme les yeux sur ces questions. Parce qu'il y a des faits de ce type, pratiquement quotidiennement, on en parle. Et il y avait eu une affaire dernièrement, un fait divers malheureusement, d'une jeune femme touriste italienne qui s'est faite faucher, qui en est
là,
morte.
On a surtout parlé aujourd'hui de ce petit garçon ukrainien.
Ce qui est abominable. Et en plus, cette touriste s'était faite détrousser. La double peine. Mais il y a un moment donné, moi je veux bien qu'il y ait des nouvelles technologies qui arrangent le plus grand nombre, mais il faut faire avec tout le monde. Parce qu'on vit tous dans la cité, on est tous des citoyens.
Je vais finir sur une statistique qui fera plaisir aux chasseurs. Chaque année, il y a plus d'accidents de trottinettes que d'accidents de chasse. Voilà. Et devinez de qui on parle le plus.
C'était la punchline. Merci. Du coup, Jean-Louis, vous n'avez plus rien à dire. C'est fini. 13h50, merci de nous avoir accompagnés. Pas sur Hidalgo, mais on vous réserve pour la prochaine fois. Merci beaucoup. J'étais ravie de participer à ce Midi News en votre compagnie. Dans un instant, vous retrouverez Olivier de Carenflac pour La Belle Équipe. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute, bien sûr, de CNews. Et je vous retrouve lundi avec grand plaisir dès 10h30, d'ailleurs. Excellent week-end, à bientôt.